Tiens. Alors, nous abordons notre deuxième séance consacrée à l'Égypte ancienne, à l'Égypte antique. Vous connaissez bien sûr nos petites règles que je ne rappelle pas, mais que vous avez là à nouveau affichées pour que vous en rappeliez quand même. Je pense que vous vous souvenez de quoi était faite la séance précédente.
Oui, sur les
Juchelchelti. Voilà, sur les Juchelchelti. Donc vous vous souvenez de ça. Aujourd'hui, on va évidemment travailler sur autre chose. Et je vais sans attendre, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de choses à voir aujourd'hui, je vais sans attendre vous passer une première diapositive sur laquelle je vais vous laisser phosphorer. Voilà donc la première diapo que je vous montre, qui va nous permettre d'entrer dans le sujet du jour. Alors, de quoi s'agit-il? Comme d'habitude, on va commencer par des questions très techniques. Quelle matière, quelle hauteur, etc. Et ensuite, on essaiera de s'interroger sur la représentation qui est là. Alors d'abord, pratiquement, techniquement, qu'est-ce que vous avez sous les yeux?
Une statue.
Oui.
Statuette.
Statuette, plutôt, peut-être.
Oui, une statuette.
Ouais.
En bronze.
En
bronze.
En bronze. Ouais. Donc une statuette en bronze.
Qui représente une femme avec une tête d'animal.
Qui représente une femme avec une tête d'animal.
Et des pieds...
Des pieds d'animaux.
Et des pieds d'animaux.
Et puis une attache derrière.
Oui, il y a une accroche.
Et une accroche derrière. Ouais. Alors, peut-être commençons par la femme avec tête d'animal. Qu'est-ce que vous pourriez signaler qui nous permettrait de décrire un peu plus cette figure que vous avez sous les yeux?
C'est un hippopotame.
Hippopotame?
Oui, un peu, oui.
Donc, c'est une tête d'hippopotame. OK. Qu'est-ce que vous voyez comme autre élément caractéristique de ce personnage?
Les seins.
Les seins, oui.
Ils sont bien représentés tombants.
Bien, des seins tombants, oui.
Un ventre.
Des mamelles, je dirais même. Hein,
oui.
Presque plus que les seins.
Pas de mains, mais des sabots de je sais pas quoi.
Des sortes de sabots en guise de main, oui. Oui.
Comme les pieds.
Comme les pieds.
En fait, il y a une courbe.
Une sorte d'hippopotame,
oui.
Debout au lieu d'être...
Oui.
Hein, je n'ai jamais été regardé sous une hippopotamesse s'il y avait ce genre de mamelle-là, mais enfin bon.
Non.
Je crois pas.
Hein. On dirait qu'elle a une coiffe.
Ah, elle a une coiffe, oui. Comment est-ce qu'on qualifie ces coiffes? On en a déjà parlé la fois dernière avec les ouches et petits.
C'est une perruque ou...
Oui, c'est un effet... Enfin, là aussi, je ne suis pas sûr que beaucoup d'hippopotames portent des coiffes ou des perruques. Hein. Mais effectivement, c'est une sorte de perruque rapportée. Hein. On appelle ça une perruque tripartite. Hein. Il y a effectivement la partie arrière, puis deux devant qui tombent de chaque côté du visage. Hein. OK. Donc, je crois qu'on aura en effet à peu près décrit cette figure, un hippopotame, ou plutôt une hippopotame, avec ses mamelles pendantes, avec ses sabots en guise de mains et de pieds. Vous avez noté qu'elle avait une perruque tripartite. OK. Et puis vous avez parlé avant de ce truc, je vous mets ce mot entre guillemets, qu'il y avait dans le dos. C'est quoi ça? Pour accrocher. Autrement dit, cette...
Ça peut être une amulette.
Voilà, c'est effectivement une amulette, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour être accroché, ce qui vous donne peut-être une idée de la taille que ça peut avoir.
C'est petit. Hein.
Oui, voilà. Un petit peu moins, oui, c'est quelque chose qui fait quoi entre 5 et 10, quoi. Hein. C'est vraiment une statuette. Hein. OK. Vous auriez encore, des remarques à faire pour caractériser cette figure?
Les bras ne font pas très animal, ça fait plutôt les
bras
humains.
Oui. Est-ce qu'il y a comme ça, je demande d'autres éléments qui sont assez humains sur cette figure? Les bras?
Les bras, la tenue debout.
La tenue debout, oui, j'ai des hippopotames, elle n'est pas fréquente, je pense.
Non. La coiffe.
La coiffe, effectivement. Et quand on a un premier regard sur cette figure, qu'est-ce qui peut-être frappe aussi, au-delà de son visage hippopotamesque?
Le gros ventre.
Le.
Il y a un gros ventre.
Le gros ventre, absolument. Hein, le ventre est proéminent. Ça, c'est très hippopotamesque. Hein. Voilà, et donc, effectivement. Le,
la bouche ou la gueule, ça dépend.
Oui.
Ouverte.
Oui.
Bouche ou gueule, je ne sais pas.
Oui, oui, je pense qu'on doit dire gueule pour un hippopotame. Un spécialiste d'hippopotame, mais oui, on peut dire ça, je pense. Hein. Donc, effectivement, l'embonpoint, hein, une chose caractéristique des hippopotames, mais qui, là, nous est clairement révélée. Hein. OK. Donc, vous pensez que c'est une amulette hein, en bronze. Bien. À votre avis, cette figure, cette figurine, correspond à quoi ? Cette hippopotamesse qui est très animale, mais qui est assez très humaine, bras, perruque, mamelles, cette figure animale anthropomorphisée, pourrait-on dire, c'est quoi ? C'est une amulette, d'accord, mais pourquoi porter un hippopotame sur soi ?
C'est une divinité.
Une divinité, donc, oui. Vous la connaissez, vous savez son nom peut-être ?
Non, ah, bon, je suis, mais je ne sais plus.
Non, ouais. Et vous savez à quoi elle. Qu'est-ce qu'une divinité comme ça peut. À quoi est-ce qu'elle peut correspondre ? Quel peut être son.
C'est souvent protecteur.
Oui, protecteur.
La maternité.
La maternité. Et pourquoi ?
Bah,
le
ventre.
Le ventre.
Les mamelles, le ventre.
Voilà. Effectivement, Touéris, c'est son nom. Hein. Touéris, c'est le nom de cette divinité hippopotame. Touéris, c'est la divinité des parturientes. Hein. C'est elle qui protège l'enfantement, pourrait-on dire, la maternité. Donc c'est une divinité qui est effectivement extrêmement populaire hein, en Égypte. Et vous verrez de très nombreuses amulettes figurant Touéris. Hein. Il y en a des quantités. Il y en a au musée du Salon, hein. Enfin, il y en a partout. Touéris, c'est vraiment une divinité très fréquemment montrée. Et on a volontiers une douille sur soi, ou près de soi, et voilà. Alors, je vous passe la petite notice correspondante, hein, vous la voyez là de face. Hein. On est devant une pièce qui date de la basse époque. Hein, vous vous rappelez, on ne va pas revenir aujourd'hui sur la chronologie, mais on avait évoqué la fois dernière les trois grandes périodes de l'histoire égyptienne. Hein, et on avait vu aussi qu'il y avait une période avant et une grande période après. Bon, là, on est vraiment à la basse époque, hein, ce genre d'amulette-là. Date de cette période-là. En revanche, je vous aviez dit bronze. Ah, oui, c'est pas de bronze. Hein. C'est de la faïence, vous vous rappelez. Hein. Mm-hmm. On avait parlé de cette matière la fois dernière. Hein. Mm-hmm. On avait vu beaucoup de bouchers petits en faïence. Cette faïence égyptienne qui va du bleu très riant, j'ai dit, hein, jusqu'à des verts plus pâles, presque céladons, comme ça. Ben, ça, c'est de la faïence. Cette fameuse faïence égyptienne qui a été tellement, tellement utilisée. Bien.
Alors comment elle tenait ? Parce qu'on la voit donc à plat, mais il y a cet engin derrière pour la tenir. Comment ça fait ?
Alors, ben, vous passiez une corde, hein, par une corde, un lacet enfin, à l'arrière, et puis vous pouviez porter ça, ou le faire porter, par exemple, dans. On a trouvé de très nombreuses tombes hein, avec des amulettes de Touéris. Vous voulez dire ne pas la porter non plus, enfin voilà, c'est une. Et donc quand vous la portez, ben voilà, et là j'allais dire, c'est une espèce de socle qui ne sert plus à rien, mais elle peut également être posée comme ça. Voilà, c'est un peu une multifonction, et on la trouve volontiers dans les tombes, on peut même la trouver dans les sarcophages, dans les bandelettes de la momie, que sais-je encore. Hein. Voilà, tout c'est toujours. Elle est protectrice des parturientes, des accouchées, mais elle est protectrice de manière un peu générique, donc c'est une figure tout à fait favorable. Ben, aujourd'hui, ce que je vous propose, à travers une quarantaine à peu près d'amulettes comme ça, c'est de regarder ça. Et ça va nous permettre, mine de rien, de commencer à naviguer dans, on dirait, des questions touchant à la religion égyptienne. J'ai pensé de le faire à travers les amulettes et pas forcément avec des grandes sculptures de 15 mètres de haut. Peut-être changer un petit peu nous permettrait d'aborder de manière assez directe ces questions-là. On va regarder plein de choses sur lesquelles je vais vous faire réagir. Alors.
Ça, c'est un œil.
Un œil. Oui. Voilà, l'œil d'Horus. Alors, l'œil d'Horus, d'accord, mais c'est quoi Horus ?
C'est le fils d'Isis.
Alors, Horus est effectivement le fils d'Isis. Quand on est fils de quelqu'un, généralement, on a un père aussi. Osiris, hein, donc c'est le fils, effectivement, d'Osiris et d'Isis. Okay. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet œil, enfin, œil d'Horus, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi pas sa main, son pied, son nombril, autre chose?
C'est vu ce qu'on voit sur les bateaux à Malte.
C'est vrai. Alors ce qu'on, vous avez raison. À Malte, par exemple, ou d'ailleurs dans d'autres lieux de Méditerranée, mais à Malte, c'est très visible, il y a des yeux comme ça. Alors, à Malte, c'est plus une tradition grecque qui est... vous savez, cet œil prophylactique hein, que l'on a, d'ailleurs, dans tout le bassin méditerranéen, hein, et qui que l'on peut voir, d'ailleurs, par exemple, dans la céramique grecque du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, où on voit souvent des yeux, hein, des yeux de ce... Enfin, du genre de ce que l'on voit aujourd'hui encore à Malte, absolument. Hein. Alors là, effectivement, cet œil que vous voyez là a aussi, vous faites bien de parler de Malte, hein, une dimension de protection. Mais pourquoi cet œil d'Horus? On appelle comment d'ailleurs cet œil-là? Ça, non, on ne l'appelle pas œil d'Horus, on l'appelle Udjat. Hein, on l'appelle l'œil Udjat, O-U-D-J-A-T. L'œil Udjat, c'est l'œil d'Horus. Et il a effectivement un rôle protecteur. Et vous faites bien de souligner cette parenté avec la Grèce ou aujourd'hui Malte. Simplement, pourquoi l'œil d'Horus? Pourquoi on ne voit pas sa main, sa tête, son pied, son bec?
C'est à cause de sa tête, parce qu'il a une tête de faucon, et que le faucon voit très loin.
Alors effectivement, Horus est un dieu faucon, enfin peut être un dieu faucon, parce que les dieux égyptiens, ils sont compliqués, hein, ils changent tout le temps de tête, si j'ose dire, c'est un peu difficile. Enfin, Horus, là, une des apparences les plus fréquentes d'Horus, c'est effectivement le fait qu'il est un faucon, qu'il ait une tête de faucon. Donc, oui, et c'est vrai que le faucon a des yeux perçants, hein. Donc ce serait pour ça, parce que le faucon a l'œil perçant, qu'on a choisi l'œil pour évoquer Horus, du fait du caractère perçant du regard du faucon, donc d'Horus. Ça vous va, ça?
Une des idées, après.
Une des idées,
parce que souvent les yeux en Méditerranée, hein, quand tu parles d'œil, c'est pour lutter contre le mauvais œil, comme ils disent, en Méditerranée. Donc, c'est-à-dire pour lutter contre le mal.
Oui.
Alors... ça nous éloigne de l'œil perçant. Donc, il y a peut-être une autre explication.
Un rôle de surveillance.
Oui. Donc, on serait décidément bien dans cette idée de sagacité de l'œil, en quelque sorte. Hein, l'œil est capable de voir, d'observer, et le faucon, peut-être mieux que d'autres. Donc, on choisit un œil pour montrer cette capacité d'observation.
Et si on était sous sa protection?
Oui. Alors, effectivement, vous avez raison, l'œil Udjat est un œil qui a pour but de protéger celui qui le porte. Hein, c'est un peu, d'ailleurs, comme la Touéris qu'on a vue avant, qui accompagne. Hein. Alors, Touéris est également une divinité assez protectrice, en tout cas accompagnatrice, favorable. Hein. Mais l'œil Udjat, vous savez, c'est le cas, vous parliez de Malte tout à l'heure, on parlait aussi de la Grèce antique, mais aujourd'hui en Grèce, ou en Turquie d'ailleurs, hein, on peut acheter des petites amulettes qui représentent des yeux. Hein, oui. Voilà. Peut-être si vous êtes en Turquie, voilà ça. Et donc le mauvais œil, enfin, c'est un œil qui est pour là pour effectivement empêcher le mauvais œil. Hein, c'est-à-dire les choses mauvaises qui viendraient vous gêner bien. En fait, il y a une raison plus précise pour laquelle cet œil, qui est bel et bien l'œil d'Horus, a été choisi plutôt qu'un autre élément de sa corporalité. Pas d'idée décidément.
Mais est-ce que dans les hiéroglyphes, il n'y a pas un œil aussi qui est symbolique?
Il y a tout à fait un œil. D'ailleurs, il faut bien de parler d'hiéroglyphes, parce qu'on a l'impression d'avoir un hiéroglyphe sous les yeux, là. Oui. Hein. Et à vrai dire, je crois que vous avez, d'autres intéressants, vous évoquiez cette question des hiéroglyphes, parce que finalement, tout l'art égyptien, je dirais, est en connexion avec ces questions des hiéroglyphes. Toutes ces amulettes que nous allons voir, c'est jamais des sortes de hiéroglyphes amulettes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en Égypte, l'écriture est une chose fondamentale. En fait, ce qui est parce que c'est écrit. Hein, l'écriture est donc au centre même, je dirais, de la civilisation égyptienne. Donc, le hiéroglyphe, c'est vraiment la base autour de laquelle s'organise, pourrait-on dire, la culture de la culture au sens large du terme, hein, de l'Égypte antique. Donc, quelque part ici, on a effectivement une sorte de hiéroglyphe, mais qui est en même temps une amulette. Mais tout comme Tuiris, vous trouveriez hiéroglyphe Tuiris. Hein. Tout ça, c'est des sortes de hiéroglyphes. Hein. D'ailleurs, non seulement ça est un hiéroglyphe, mais cet élément-là, en état aussi, celui-là aussi, l'œil, ça, le sourcil aussi, dire tous les éléments constitutifs de cette Ujjal sont des hiéroglyphes. Alors, ne me demandez pas lesquels, je ne connais rien à l'écriture égyptienne, hein, mais chacun des éléments constitutifs de l'Ujjal sont des éléments de hiéroglyphes. Parenthèse, de quoi est-ce qu'il est constitué cet œil? Bon, il y a ça qui est quoi?
L'iris.
Voilà, oui, la revue, la pupille peut-être aussi, hein. Ça.
Les paupières.
Les paupières.
Les paupières. Les paupières. Ça.
Les sourcils.
Si. Ça.
C'est la queue, non?
Oui, mais
du personnage, on a ça. On dirait qu'il y est, il est en entier, mais découpé, non?
Tu verrais le personnage derrière.
Ouais.
Carrément le personnage lui-même. Il serait un peu.
L'oiseau. L'oiseau, mais
je comprends. Ce serait là la queue de l'oiseau.
Oui, voilà, c'est ça. Les pattes devant.
Je vois ce que tu veux dire. Alors,
les pattes et le corps.
Je comprends.
Derrière l'œil.
Alors, c'est pas ça, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on aurait l'oiseau avec sa queue là, ses pattes là, un œil hypertrophié,
ouais.
Et puis peut-être une crête, quoi. Hein.
Ah, ça peut être la queue, effectivement, qui ressemble un peu. Ça pourrait être la barbe.
La barbe postiche.
La barbe postiche qui a cette forme-là.
Oui.
Puis
alors, il y a en fait une autre. Personne n'est tout à fait fixé, semble-t-il. Hein. Je ne suis pas non plus un spécialiste des Ujjal, mais d'après ce que j'ai vu et lu, il y a d'autres interprétations qui sont plus proches de la question de l'œil. C'est-à-dire qu'on verrait dans ça une larme, c'est quelque chose qui est sécrété par l'œil, et ça, cette espèce d'élément-là, qui quelquefois se continue au-dessus. Le fait que chez les faucons, alors c'est bien les hippopotames, j'ai jamais regardé ça de près chez un faucon, il y a sous l'œil une sorte de trace, si vous voulez. Voilà. Ce serait donc un élément caractéristique de l'œil du faucon, montrant bien que ce n'est pas l'œil de monsieur et madame tout le monde, mais bien du faucon, et en l'occurrence du faucon russe. Alors, il faut quand même vous dire pourquoi on a choisi un œil, plus qu'autre chose, pour évoquer Horus. Vous l'avez dit, hein, Horus, c'est le fils d'Osiris et de Isis. Et vous savez qu'Isis et Osiris étaient frères et sœurs. Hein. Il y en avait d'autres. Néphthys, par exemple, fait partie des frères et sœurs, enfin des sœurs d'Osiris. Mais vous savez que Isis et Osiris ont eu comme fils Horus, mais vous savez également qu'un autre des membres de cette fratrie, qui s'appelle Seth, qui est donc le frère d'Osiris, était jaloux de son frère aîné Osiris, qui était pharaon, qui était roi. Et vous savez aussi que Seth a réussi à entraîner Osiris dans une sorte de guet-apens, à le tuer. Vous savez qu'il a coupé son corps en morceaux et que Isis est allé récupérer avec Néphthys les morceaux d'Osiris. Et après ce meurtre de son père par son oncle Seth, Horus a voulu se venger de Seth. Donc il y a eu un combat singulier entre Seth et Horus. Et dans ce combat, dans lequel d'ailleurs Horus est finalement sorti vainqueur, Horus s'est fait arracher son œil gauche par Seth. Donc c'est bien l'œil gauche d'Horus qui ici est représenté. Parce que après ce combat singulier où Seth a arraché l'œil de son neveu, si vous voulez, Horus a réussi à récupérer son œil gauche et il l'a offert en présent à Osiris, qui entre-temps avait été recomposé par Isis et Néphthys. D'accord ? Donc, si vous voulez, l'œil est finalement l'élément qui, à cause de ça, qu'est-ce qu'il évoquerait, l'œil gauche d'Horus, finalement ? Parce qu'il est arraché, mais il est récupéré, et il est donné par Horus à son père. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, que ça signifie ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'œil Ujjal ?
La résurrection ?
Ça évoque cette idée, effectivement, après la mort de Stoth, de résurrection, donc ça confirme un peu déjà ce qu'est Osiris, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt et qui ressuscite, ouais. Donc ça, c'est une première idée, une sorte de renaissance, pourrait-on dire. Le Ujjal est un élément qui fait renaître, ouais. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose?
La victoire.
Le triomphe, la victoire, c'est aussi un élément. Donc, effectivement, on est là devant quelque chose de très protecteur, ouais. Il y a peut-être une troisième notion aussi.
La vengeance, la filiation.
Alors, vengeance, pas trop, même si les victoires, un peu peut laisser entendre ça, oui. Filiation, oui.
C'est là. Le témoin du fait que Horus est le fils d'Osiris.
Oui, il peut y avoir cette notion-là aussi. Il y a une autre notion qui existe, c'est celle d'intégrité. Parce que, vous savez, tout comme on a vu la dernière fois que Osiris avait été recomposé par les Neftis, et donc on arrive en le momifiant hein, à refaire un personnage, Osiris. C'est un peu pareil pour le Yujat. Hein. C'est-à-dire que l'œil d'Horus avait été enlevé, il le récupère, donc il est de nouveau intègre, et cet élément de l'intégrité, il le donne à son père, j'allais dire, pour enfoncer le clou de l'intégrité, en quelque sorte. Donc le Yujat, c'est quelque chose qui, effectivement, évoque tout ça. Il est de l'intégrité physique, il lui manque un œil, il le récupère, et puisque c'est si précieux, il le donne à son père, ce qui est une manière, si vous voulez, d'enfoncer le clou de cette idée, effectivement, de renaissance. Donc le Yujat, c'est tout ça à la fois. C'est effectivement une amulette extrêmement protectrice. Vous verrez des Yujat partout, il y en a des quantités. Le Yujat est vraiment une amulette extrêmement fréquente dans les collections du monde entier. Hein. Bien, on continue. Suivant. Un faucon. Pardon ? Ben voilà, c'est Horus. Horus sous sa forme faucon, faucon complet. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc on est là effectivement devant Horus, le faucon, c'est-à-dire le propriétaire de l'œil qu'on a vu juste avant. Hein. C'est le faucon Horus. Ok ? Bien, pas de problème. Il y a des choses faciles, il y en a de plus dures. C'est un côté aztèque. Bon. Eh bien non, on est bien en Égypte, mais je suis d'accord avec vous, il y a un côté Amérique du Sud, mais c'est peut-être pas le seul cas d'ailleurs. Et pourtant, on est bien en Égypte.
On hésite entre des bébés et un bébé à tête d'adulte. Ça fait un peu bizarre.
C'est un nain.
C'est en fait, oui, une sorte de nain. Oui.
Alors, en faïence également.
En faïence également. En fait, tous les objets qu'on a vus jusqu'à présent en sont. Hein, Horus qu'on vient de voir, le Yujat, la Tuéris, tout ça, c'est de la faïence.
C'est pour trouver que, Laurie, à quoi sert cette amulette ?
À quoi sert ?
Cette amulette, quel genre de protection ?
Voilà, c'est ça, ce personnage, qu'est-ce qu'il vous inspire, à votre avis ? À quoi correspond-il ? Que veut-il dire ?
Un rigolo.
Un rigolo.
Une amulette, c'est pour protéger, donc forcément, il doit y avoir.
Il y a les mains sur les hanches, je ne sais pas, la force. Ouais.
Donc, on a là un personnage naniforme, plutôt rigolo, plutôt favorable. Hein ? Ouais.
Mais il est baraqué quand même, hein.
Ouais.
Large,
oui, 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 effectivement, on sent que.
Ouais, il est grassouillé parce que quand tu regardes les bras, là, il y a de la graisse.
Hein. Oui, oui. D'ailleurs, le.
Pour ça qu'on hésite entre un bébé.
Il a un petit ventre aussi, hein. Oui.
Une idée les fesses et tout, il est bien grassouillé.
Une idée de force.
Oui.
Alors, il a un crâne.
C'est peut-être pour donner un bébé pour que plus tard il soit grand et fort.
Oui.
Intelligent, beau, enfin tout.
Bon, donc c'est un personnage favorable, un peu rigolard, naniforme, costaud, on sent qu'il y a quelqu'un qui a une sorte d'énergie, de force, de puissance. Hein, okay. Alors, il peut, donc vous avez dit qu'il était protecteur, ok, mais enfin, ça vous allez dire pour toutes les amulettes, moi il m'en faut un peu plus. Hein. Protecteur de quoi, de qui, de comment, à quoi correspond-il ?
That's the question.
Voilà, c'est ça, parce que protecteur, on va dire ça pour les 40 diapos. Hein.
C'est protecteur ou représentation ?
Alors, à votre avis ?
Ben, je ne sais pas, ça peut être la représentation d'un personnage qui est décédé, qui était nain.
Donc, ça pourrait être
simple.
Voilà, ça pourrait être donc simplement la représentation de quelqu'un, finalement.
Je ne sais pas.
Ouais. Non, mais c'est une proposition. Ouais. Donc, une sorte d'évocation d'un personnage, et donc sa représentation.
Ça serait pas une amulette.
Oh, ben, ça peut être un personnage qui, j'allais dire, qui a atteint une sorte de célébrité et qui devient une amulette protectrice.
Je ne sais pas. Il ne serait pas tout nu.
Il ne serait pas tout nu. Bon, en Égypte, tout le monde est tout nu.
Non, mais vous avez un pagne, au moins.
Ah oui, un petit pagne.
Là,
non, en Égypte, on n'est on est pas trop regardant là-dessus. Encore que souvent, il y a des pagnes, vous avez raison.
Il y a une drôle de forme de crâne, quand même. Hein.
Oui. Et à votre avis, il pourrait correspondre à... Si c'était une figure, d'ailleurs que ce soit une figure réelle, j'allais dire, hein, ou bien une figure symbolique, c'est une figure qui correspondrait à quoi? Quel genre de... Pas de domaine.
Le handicap.
Un handicap, donc ce serait quelque chose qui évoquerait, qui protégerait, qui accompagnerait. Tout comme on a vu que Thoëry, c'était les parturientes. Hein. Bon. Là, c'est plutôt quelqu'un qui serait. Vous savez, c'est comme nous, on a des saints, puis des saints qui correspondent à des corpos, des corporations. Hein. Là, c'est une figure qui correspondrait peut-être à tous les gens qui ont des problèmes de handicap, comme on dit aujourd'hui. Les gens en situation de
handicap. Pour protéger contre l'homme.
Pour les protéger.
Oui, c'est pour ça que moi je pensais que c'était pour un enfant ou un bébé, pour le protéger pour sa vie future.
Donc on aurait là peut-être une figure qui, naniforme, avec quand même des déformations, peut-être le crâne, hein, hypertrophié, et donc qui serait une figure, alors soit une figure qui a réellement existé, soit pas, mais qui serait là pour évoquer les questions d'accompagnement des handicaps. Je vais résumer ça comme ça. Ça vous paraît juste ce que... Hein? Alors en fait, c'est pas ça. Le personnage que vous avez là s'appelle Ptah-Patek. Alors Ptah-Patek, comme vous voyez, ces deux mots, d'ailleurs je peux mettre là... Légende. Ptah-Patek. Alors, Ptah, c'est un dieu égyptien.
Oui.
C'est le dieu égyptien des questions souterraines, si vous voulez. Hein. Et c'est notamment un dieu qui est Ptah, qui est le dieu qui accompagne un certain nombre de corporations liées à la construction. Par exemple, Ptah-Patek, c'est quelqu'un qui est le dieu des métallurgistes, des architectes, des constructeurs. En Égypte, tout ça a une certaine importance. Hein. Vous savez que la culture égyptienne est très marquée par une sorte de gigantisme, de monumentalisme, des monuments notamment. Hein. Eh bien, Ptah est donc un lieu ptonien qui s'intéresse à toutes ces choses qu'il y a en dessous. Il faut aller chercher le métal, il faut aller chercher la pierre, mais également, j'allais dire, les corporations qui utilisent ces matériaux pour construire. Ptah, c'est ça. Et Ptah a comme... j'allais presque dire collaborateur, Ptah-Patek, que vous voyez là, et qui est un peu une sorte d'équivalent de Ptah, mais en plus, comment on va dire, plus quotidien. Hein, parce que Ptah, c'est quand même le dieu. Hein, Ptah-Patek, c'est une sorte de, j'allais dire, de demi-dieu, hein, un peu, vous savez, comme dans la mythologie grecque, vous avez les grands dieux, hein, Jupiter, Junon, etc. Puis vous avez des demi-dieux, un peu comme Hercule, qui sont un peu entre les dieux et les hommes. Quoi. Ben, Ptah-Patek, c'est un peu ça. C'est une sorte de dieu intermédiaire, si vous voulez, qui est proche de Ptah, du nom de Ptah-Patek, et qui et par exemple, c'est un dieu, enfin, un demi-dieu, une figure, Ptah-Patek, qui est une sorte de génie, si vous voulez, qui est très honoré dans les corporations de métallurgistes, de carriers, etc. Hein, tous ces gens qui étaient des populations extrêmement nombreuses, hein, travaillaient beaucoup. Sous la protection, pourrait-on dire, de Ptah, bien sûr, mais de Ptah-Patek, qui a une dimension plus humaine, si vous voulez. Hein, vous voyez, Ptah, c'est le grand dieu, Ptah-Patek. On a peut-être plus sur soi une amulette de Ptah-Patek que de Ptah. Ça revient un peu au même, d'ailleurs, mais Ptah-Patek est plus immédiat, en quelque sorte. Hein.
Vous verrez... Pourquoi il est difforme?
Pardon?
Pourquoi?
À votre avis, quelle peut être la raison qui fait qu'il est un peu... Vous l'avez un peu dit, d'ailleurs, d'une certaine manière.
Dans les souterrains.
Alors il y a peut-être de ça, il peut de côté, il peut aller, il peut flirter. Ouais.
C'est parce qu'il travaille à la forge.
Peut-être aussi, vous avez d'ailleurs dit son caractère un peu costaud. Hein. Oui. Il est un peu costaud. Hein. C'est pas un petit machin frêle, hein. Il est costaud. Hein. Donc voilà, il n'a pas peur hein, de manier un marteau. Et... Il y a aussi que le caractère un peu. Il n'est pas monstrueux, hein, mais il a un côté un peu difforme, un peu spécial. C'est peut-être aussi pour, comment dire, par ce côté-là, puisqu'il est protecteur, dissuader que, c'est toujours une sorte de mauvais œil, quoi, hein, que des esprits malins puissent gêner ceux qui sont chargés de protéger, vous voyez ce que je veux dire. Par sa difformité même, il va repousser la difformité, vous voyez. Vous savez, c'est soigner le mal par le mal, je dirais. C'est un peu ça.
C'est un homme.
Pardon ?
Les gens par moi, c'est...
Alors là, c'est une cassure involontaire.
Hein. Ah, c'est une cassure, autant... normalement, il avait des pieds.
Normalement, il a des pieds, oui. Alors, vous, des ptapathèques, vous en verrez des quantités. Hein. C'est un peu comme Touéris. Touéris, on en voit beaucoup. Ptapathèque aussi, hein. vous verrez. Je connais assez peu de collections égyptiennes en France qui n'est pas de ptapathèque. Hein. J'en rappelle plus, mais je pense qu'à Chalon, il y en a, en tout cas. Voilà. Les collections, enfin les musées qui ont des collections égyptiennes en France, généralement, ont au moins du ptapathèque, alors du petit, des grands, des moyens, etc. Il y en avait beaucoup. Ça fait partie d'une espèce de génie protecteur extrêmement populaire en Égypte. Hein ? Ok ?
Thoth.
Effectivement, ça, c'est Thoth. Mais Thoth, c'est qui ?
Alors, Thoth, c'est qui ?
Thoth, c'est qui ?
Oh, c'est un dieu.
Ah, c'est un dieu.
Le scribe. C'est le dieu des scribes.
Des scribes, c'est-à-dire
ceux qui ont la connaissance.
Oui. Donc, toi, c'est le dieu de la connaissance. Si on pousse un petit peu le cochon et plus loin, on pourrait dire le dieu de quoi encore?
De l'écriture.
De l'écriture. Du savoir. Du savoir, de l'intelligence, absolument. Toi, c'est ça. Hein. Toi, c'est le dieu intello. C'est le dieu de l'intelligence, du savoir, de l'écriture. C'est vraiment... celui qui règne sur toutes ces questions. Quelle est son allure, là ? Pardon ? Oui, il a une tête d'oiseau. Quel oiseau ? Un ibis. Ouais. Il a une tête d'ibis. Hein. Des ibis, il y en a beaucoup en Égypte. Il a une tête d'ibis. Par parenthèse, évidemment, faire une tête d'ibis en faïence... C'est un peu compliqué, enfin c'est faisable, mais c'est fragile si vous voulez. Parce que l'ibis, il a un long cou très léger, vous voyez ce que je veux dire. Donc généralement, pour que ça tienne et que la tête ne soit pas cassée, vous voyez qu'il y a sous le bec et la tête une sorte de paroi de faïence qui donne sur la poitrine, vous voyez ce que je veux dire, qui empêche la tête de casser. Autrement, vous auriez. Voilà. Déjà, c'est fragile, alors ça le serait encore plus s'il n'y avait pas ça. Donc ne vous étonnez pas d'avoir sous le bec et le cou une espèce de. Paroi de faïence qui n'existe pas, non, enfin qui n'a pas existé, vous voyez ce que les mecs qui est là pour des raisons techniques. Ok hein voilà. Donc effectivement, Thoth est représenté ibiocéphale avec une tête d'ibis et le corps, un corps masculin normal, je dirais. Hein. Voilà, il est représenté marchant, hein, comme beaucoup de ces divinités que nous allons voir. Et c'est effectivement le dieu intellectuel, pour faire vite. Par parenthèse, vous voyez que toutes ces amulettes que je vous montre datent vraiment de la basse époque. À la basse époque, et là, la fourchette de date est très, très large. Elle pourrait être élargie sans doute un peu, on en avale. Mais à la basse époque, vraiment, les amulettes vont connaître un succès considérable. On a fabriqué quasiment industriellement. C'est pour ça qu'il y en a partout. Voilà. Alors, diapo suivante. Alors, c'est quoi ça ?
Une étagère.
Une étagère, oui. On dirait un peu une étagère de Tsotsas.
Ça ressemble plutôt à un pilier. Enfin,
Alors, vu qu'il ça ressemble à un pilier, c'est un pilier d'ailleurs. Hein. Alors, vous pouvez dire le nom.
Djed.
C'est le pilier Djed. D-J-E-D. Hein, Djed. Vous avez le devant, vous avez l'arrière. Alors, c'est un pilier, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ce pilier de gel ? C'est quoi ?
Alors, il y a quatre étages, il y aura une signification qu'il y ait quatre étages.
Ça quatre aussi. Niveaux donnés quatre dans niveaux. L'étagère, oui.
Alors, pourquoi ?
Pourquoi ?
Pour atteindre les cieux.
Donc, c'est quelque chose qui est fait une sorte d'échelle pour atteindre le ciel.
Oui.
Allons-y. Quand vous regardez ça, ça vous fait penser à quoi ? Quand vous voyez ce pilier qui s'appelle Djed, ce qui nous avance beaucoup, qu'est-ce que ça vous pensez à quoi ? Ça ressemble à quoi ?
Ça me fait penser à des architectes qui construisent.
Donc à quelque chose qui est construit, un pilier décidément. Bon.
C'est un symbole ?
Un symbole. Absolument.
Symbole de la... de la construction de quelque chose.
Ouais. Et physiquement, là, d'un élément d'architecture, est-ce que ça vous suggère d'autres choses au niveau de ça?
On a envie d'accrocher quelque chose.
On a envie d'accrocher quelque chose.
De tenir comme un sceptre.
De tenir comme un sceptre. Donc il y aurait un côté... Vous n'avez pas tort, on verra peut-être, je ne crois pas aujourd'hui, mais peut-être dans les séances futures, que certains tiennent le pilier de gêne. C'est donc qu'il va vouloir dire quelque chose. Mais peut-être que pour trouver ce qu'il veut dire, encore qu'on ait en partie trouvé... Peut-être qu'il faut essayer de voir, encore une fois, à quoi ce que vous voyez là peut nous faire penser. Vous avez dit construction, solidité, structure, bâtiment, enfin voilà. Hein. Donc on aurait là quelque chose d'architecturé. Ok, c'est un pilier. D'ailleurs, dans un sanctuaire égyptien du Delta, je crois, il y avait un vrai grand pilier de jade comme ça construit. Hein. Donc, effectivement, c'est ça. Mais il y a encore deux autres choses qui entrent, je dirais, dans... l'explication de ce que c'est que le pilier de Gène et qui explique bien ce qu'il évoque, ce qu'il veut dire, ce qu'il suggère. Quand on voit ça, est-ce que ça peut, physiquement, hein, sans aller plus loin, est-ce que ça peut faire penser à autre chose?
Un papyrus.
Un papyrus, donc de, quelque chose de végétal,
ça,
donc une sorte de tige de végétal.
Et puis ça s'évade,
ouais. Ouais.
Ça peut faire penser aussi à un instrument de musique.
À un instrument de musique, ça fait penser au sistre, par exemple.
Oui. Des...
Ouais. Alors, en l'occurrence, le côté instrument de musique, c'est... le 6, c'est un peu différent, mais je vois ce que vous voulez dire. Hein.
Mais c'est toujours de la même taille que les...
Oui, ce pilier de jade, il fait quoi? À peine 10 cm.
On le trouve souvent sur les peintures.
Alors, il y en a des minuscules, il y en a des grands. Pareil, vous en verrez partout, les piliers de jade. C'est extrêmement fréquent.
Un émetteur.
Ah oui, il y a un côté émetteur. Il y a un côté, effectivement. Et alors, c'est pas ça non plus, mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Hein. Il y a un côté pylône, quelque part. Hein. C'est vrai. Mais bon, je ne cacherai pas que c'est pas ça. Non, si on va du côté végétal, papyrus, ok. Mais est-ce que ça peut vous faire penser à autre chose aussi?
Une botte.
Non. Une botte.
Une botte d'herbe.
Ah oui.
Mmh. Une cuillère à miel.
Une.
Ah oui.
Une cuillère à miel.
Ah oui.
Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ouais.
Une fontaine.
Ouais. Une fontaine. Là-dedans, il y a de la créativité aujourd'hui. Hein. C'est vrai que ça peut faire penser à tout ça. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas de cuillère à miel de cette forme en Égypte. Et je vois pas non plus de fontaine de ce genre en Égypte, mais je ne sais pas tout.
Raté.
C'est un végétal.
Un végétal, oui. Est-ce que vous pouvez penser, si vous poussez la zone végétale, est-ce que vous pouvez... Enfin, moi, c'est ce à quoi, avant que je sache que c'était... C'est toujours ce à quoi me faisait penser le pilier de Gênes, mais bon.
C'est un végétal. Il y a un empilement de niveaux végétaux là-dedans.
C'est en haut, vous pensez à l'empilement?
Enfin, à l'empilement. C'est-à-dire que... Pas comme un artichaut, mais enfin...
Oui, des choses qui...
Qui s'imbriquent les unes dans les autres.
Oui, dans la partie supérieure, du moins.
Oui, oui.
Oui, oui, c'est pas faux.
Alors, le lotus.
Des lotus.
C'est pas assez rond pour le lotus.
Un arbre.
Plus gros que le
lotus. Plutôt un arbre.
Un palmier.
Et voilà. En fait, ça fait vraiment beaucoup penser à un palmier. Vous savez, les palmiers, notamment quand on coupe ou quand elles tombent, les rames. Voilà, il y a le tronc comme ça avec les départs. Oui. Hein. En fait, une des origines dont on parle souvent du pilier de Gênes, c'est ça, l'idée du palmier dont on a élagué les branches, hein, mais qui vont pousser. Et c'est justement cette idée qui est derrière. C'est-à-dire le fait qu'on a là, on est devant le pilier de Gênes, qui est un truc établi, solide, qui évoque effectivement la construction, ça tient, mais c'est, vous voyez, élagué, mais ça va repousser. Hein. Toujours un peu cette idée, vous savez, de la mort et de la renaissance, qui apparaît vraiment en permanence. Ça fait aussi penser à autre chose encore, peut-être. Alors là, qui est plus corporel.
Une colonne vertébrale.
Voilà. À la colonne vertébrale. Et en fait, une des origines possibles du pilier de Gênes est l'origine végétale dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le palmier élagué mais renaissant, ou bien une colonne vertébrale, et pas n'importe laquelle, celle de Ziris. Toujours pareil, parce que Ziris a été coupé en morceaux, mais qu'après, il a réussi à remettre, etc. Hein. Donc, on aurait avec le pilier de Z quelque chose qui, que ce soit le tronc fort, solide, d'un palmier qui va redonner des feuilles, n'est-ce pas, ou la colonne vertébrale de Ziris, mais qui va être... permet de réunir la colonne vertébrale, c'est la base du corps, hein, qui va permettre de réunir Osiris. Vous voyez, on a quelque chose qui est là pour évoquer la permanence, la stabilité, la mort et la renaissance, c'est un petit peu toujours la même chose, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui est là, c'est du solide, le pilier de Jed, c'est la base à partir de laquelle tout se recompose, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est ça l'idée du pilier de Jed. C'est pour ça aussi que c'est un peu comme une Bujat, hein, où j'en reviens des quantités. On a toujours un pilier de Jed près de soi, si vous. Parce que c'est quelque chose qui marque cette espèce de permanence, cette solidité, cette manière de, j'allais presque dire, de rebondir d'ailleurs. Mais derrière le pilier de Jed, il y a ce qu'on voit souvent sur les statuettes en Égypte, c'est-à-dire une espèce de pilier dorsal qui est là comme pour le conforter encore. Hein. Toutes les sculptures, soit petites ou grandes, la plupart des habits que je vous montre, ne serait-ce que le Thoth qu'on a vu avant, ont un pilier dorsal comme ça derrière, hein, qui est là justement pour adosser, justement. Hein, ces représentations. Hein. Pilier de Jed. Retenez bien ces mots quand même, d'abord parce qu'ils sont. Même si on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, c'est toujours très poétique. Enfin, moi je trouve. Hein, Jed, je trouve que c'est beau. Voilà. Et après tout, c'est des mots qui, je crois, et puis qui nous serviront dans les séances suivantes. Hein. Donc ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, la fois prochaine, ils vont avoir du mal. Hein. Je peux vous le dire, ils vont souffrir. Hein. Avec nos Jed, nos Twins, nos Zubzat. Hein. Que nous, maintenant, on connaît le vocabulaire, pas de problème. Hein. Dans les séances qui vont suivre, on va jongler tout ça. Hein. Alors,
un petit monsieur.
Qu'est-ce que vous avez là?
Qu'est-ce qu'il tient? Oh, il a un instrument agraire dans la main, non?
Oui, un instrument qui fait vraiment penser à un instrument agraire.
Ouais. Avec les deux fourches, c'est pour attraper les serpents.
Exact.
Oui.
Ah. Ouais.
Il a effectivement une sorte de sceptre, mais fourchu, qui sait effectivement attraper les serpents et à faire extraire le venin des serpents, ce qui peut être utile. Enfin, moi, je ne m'y risquerai pas, mais il y a des gens qui savent faire ça. Bon.
Oui, ça sert ça toujours, d'ailleurs. C'est un pharaon, il a la barbe?
Alors, il a une barbe, effectivement, donc une barbe postiche. Les dieux ont souvent ces barbes. Hein.
Elles sont pas recourbées,
si, alors là, elle l'est un peu.
Ah bon?
Pas trop. Qu'est-ce qu'il a comme autre caractéristique, ce dieu-là?
Il est
tête nue.
Il bouge pas, quoi.
Oui, c'est-à-dire.
Il est pas en marche,
mais effectivement. Hein. On a vu Thoth, Tuéris était en marche, hein, un pied dans l'autre. Là, non, il est momiforme, il est bon de l'été. Hein, à l'image d'Osiris. Hein.
Il dort debout.
Voilà, en quelque sorte. Hein.
Il y a un trou dans la tête.
Pardon?
Il y a un trou dans la tête.
Oui, alors là-haut, il y a effectivement. Tout à fait, mais ça, c'est plus un accident. C'est-à-dire plutôt une tache, je pense, qu'un trou, mais c'est plus accidentel que volontaire, si vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui est momiforme, qui a un sceptre, en l'occurrence, effectivement, une sorte de traduction idéalisée, enfin, de ses bâtons à attraper les serpents et à leur extraire le venin? Vous avez une idée de quel dieu ça peut être, ce dieu momiforme-là? Alors c'est un dieu dont on a déjà parlé, mais dont on a parlé de son, comment dire, de, j'allais presque dire de son collaborateur.
C'est Ptah.
Hein. Donc Ptah, c'est le chef de Ptah-Patek. Vous vous rappelez Ptah-Patek?
Oui.
Et bien là c'est Ptah, c'est le patron. Hein. Voilà. Et Ptah, c'est ben, le dieu ptonien dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Ptah-Patek est le double plus proche, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous en avez, là, on est devant un dieu, hein, on sent que quand même, c'est le niveau supérieur. Hein. Ptah-Patek, vous voyez comment Ptah-Patek est plus proche de nous, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Ptah, c'est le grand chef, donc c'est vraiment le dieu ptonien. Les serpents, vous savez, ils viennent du sol. Hein. Donc c'est normal que Ptah ait cette espèce de sceptre-là, qui d'ailleurs se termine à l'origine, la tête du sceptre de Ptah représentait des têtes de Seth. Vous savez, Seth, c'est ce méchant dieu, frère de Osiris, celui qui a tué son frère, etc. Vous vous rappelez tout à l'heure, hein. Donc, traditionnellement, la tête de cette espèce de sceptre. était formé de têtes de sept. Le sceptre était formé de têtes de sept. voilà, hein, ça se tient bien. Et donc, on est vraiment devant un Euctonien qui s'attache, si vous voulez, à tout ce monde souterrain. Encore une fois, Ptah, c'est celui qui est proche des carriers et autres constructeurs d'hiver.
Ça, c'est un chat.
C'est basket. Voilà. Alors, pas basket, mais bastet. Hein. Bastet. Hein. Pas basket. Bastet. Hein. Tiens, là, il y a une chose un peu nouvelle par rapport à ce qu'on a vu avant.
La matière.
La matière.
C'est une pierre.
C'est une pierre, absolument. Parce que là, vous n'avez pas une amulette en céramique, en faïence, mais c'est une amulette en pierre polie. C'est pas un porphyre. Là, je veux dire que la couleur est très mauvaise, hein, mais non. C'est carrément du lapis. On le devine un peu, mais la couleur est très mauvaise. Bon. Alors, ça représente un chat, ok. Basse tête. Un chat.
La déesse.
Une chatte. Oui, c'est une dame. C'est pas un monsieur. Et alors, cette. Figure de Bastet, elle évoque quoi? Elle évoque qui? À quoi correspond-elle?
Elle protège le foyer, non?
Oui, on est encore dans une productivité protectrice, plutôt du foyer, oui. Et elle a, je ne sais pas, elle a un caractère, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut la caractériser, cette Bastet?
Elle est aux aguets, là.
Ouais. Donc c'est un.
Elle est oreilles dressées avec le
pouce. Oui. Oui, les bastets sont parmi les représentations dans les égyptiens les plus célèbres, toujours d'une très grande élégance, hein, très, très bien fait.
Féline.
Très féline. Et à votre avis, elle correspond à quoi? On est toujours devant une déesse favorable, sympathique, qui protège le foyer, comme tous les autres. Enfin, tous les autres. On a vu qu'il y a des petites nuances, mais...
Il y en a une autre, des chattes, c'est
Sekhmet. Sekhmet, c'est donc une autre chatte. Ok. Une chatte.
Ah non, c'est un chat.
Non.
C'est loin.
Il y en avait beaucoup puisqu'ils me faisaient momifier leurs chats. Oui. Donc il y a une raison parce qu'ils ont trouvé plein de momies de chats.
Oui, oui, oui. Oui, il y a énormément de momies de chats, effectivement.
Parce qu'ils mangent les rats qui détruisent les récoltes.
Alors c'est vrai que, en ce sens, le chat qui permet une sorte de. Oui, de. Protection de certains éléments proches du foyer, correspond bien ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est un élément protecteur, notamment de la maison, du foyer, etc. Hein. Simplement, il y a peut-être une dimension qui est peut-être vraie chez les chats eux-mêmes, hein, qui est peut-être ajoutée à ça. Parce que, est-ce que c'est simplement une déesse mignonne, c'est très beau, gentille, pour Dieu, le foyer, point barre. Et ce que vous disiez par rapport à Sekhmet peut peut-être nous faire penser à ça.
Le côté
guerrier. Oui, c'est-à-dire que Bastet n'est pas forcément une divinité complètement, pour employer un beau mot français, soft, si vous voulez. Hein. C'est une divinité un peu. Voilà, elle a son caractère. Quoi, hein. On n'embête pas Bastet. Hein. Alors, vous avez fait le rapprochement avec Sekhmet ou Sekhmet, puisque les cas sont prononcés plutôt. Tout à l'heure, et c'est juste, c'est-à-dire qu'on a chez Bastet une sorte de niveau mais inférieur à Sekhmet. Sekhmet, c'est une déesse lionne qui est une déesse de la colère, si vous voulez. Hein. Alors Bastet, c'est le niveau en dessous, mais il y a cette dimension. Hein. Mais ça, parce qu'il ne faut pas voir dans Sekhmet une espèce de gentille petite divinité, toute mignonne, toute sympa, qui est dans le foyer. C'est un peu plus compliqué que ça. Tout comme d'ailleurs, Tapatex, c'est un peu pareil tout à l'heure. Hein. C'est une espèce de génie protecteur, mais on a vu qu'il avait une drôle de tête. Voilà, bon. Bastet, c'est pareil. C'est pas simplement une sorte de divinité un peu féline et un peu comme ça, sans problème. Il y a une dimension de contondance, de colère contenue, d'accord ? Comme les chats, quelquefois, peuvent l'être. Les chats, vous savez, ça griffe, voilà. Hein, vous savez, les Égyptiens sont très pragmatiques. Hein. Ils parlent vraiment de ce qu'ils voient, de ce qu'ils connaissent, pour en faire après des éléments, j'allais dire, plus philosophicaux, religieux, etc. Donc un chat, c'est pas simplement un gentil petit animal, c'est aussi un animal qui peut griffer. Hein. Et bien, Bastet, c'est ça. Elle protège, elle est sympathique, elle est très bien, tout le monde aime Bastet, mais attention, ça griffe aussi. Il y a une dimension de colère. Bon, Bastet, vous en verrez beaucoup, c'est une divinité aussi très populaire.
Un bélier,
effectivement. Hein. Vous auriez des choses à en dire ? À part que c'est un bélier ?
Il est couché.
Il est peut-être, moi il y a peut-être deux petites choses que je dirais quand même.
Il a un peu la forme du sphinx. Hein,
sauf il a une forme un peu de sphinx, c'est vrai.
Avec la tête.
J'ai souvent quand on a des grandes allées comme ça.
Oui, absolument. Ouais. Ouais. Il est peut-être, c'est difficile à voir parce que cette amulette, elle fait peut-être, je sais pas, 4 cm de long. Hein, c'est vrai, pas bien gros. Hein. Je me demande s'il n'est pas lui aussi mongiforme. Vous voyez, regardez les pattes à l'avant, il n'y a rien en dessous. Voilà, bon. Alors, c'est peut-être dû au fait que c'est tout petit, quand c'est petit, quelquefois, c'est difficile de faire. Hein. Vous savez, ces amulettes étaient faites quelquefois dans des ateliers qui en faisaient 50 à la minute. Hein. Alors, bon, c'est pas toujours très bien fait non plus. Hein. Voilà. Donc, mais il est peut-être momiforme. Puis, vous voyez, le corps, on ne voit pas trop la patte arrière. Enfin, on a l'impression que ça est emballé. Bon, donc il est peut-être momiforme. Beaucoup comme ça de ces divinités, on en a déjà vu, hein, sont momiformes. Et puis, je pense qu'il a également une perruque tripartite. Vous voyez, à l'arrière du crâne, hein, et également sur le devant, on a l'impression de voir les deux éléments qui retombent. Hein. Voilà. Peut-être, hein, encore une fois, on voit les cornes. Ouais. Vous voyez à qui peut correspondre ce bélier-là ? C'est seulement un bélier, parce que, bon, bah, allons-y.
Non, il y a un dieu. C'est
un dieu. Lequel ? Il s'appelle Khnoum. Khnoum, si vous voulez. Je vais passer la légende, je l'ai inscrit. Voilà. Khnoum. Voilà. Et Khnoum, qu'est-ce que... Vous lui accorderiez quoi, peut-être, comme capacité, Khnoum, dont on aurait là la version animale.
Il est gentil.
Un gentil, il est gentil. Il est plutôt sympa. Khnoum. Il est gentil, pourquoi ?
Parce que c'est un mouton.
Non, parce qu'on utilisait les têtes de bélier pour défoncer les...
Les murs. Au Moyen-Âge.
Donc...
Le Khnoum des Égyptiens est plutôt sympathique, effectivement. En fait, Khnoum, c'est un peu le créateur, si vous voulez. On attribue à Khnoum le fait que c'est lui qui fabrique les êtres humains. C'est une sorte d'artiste, de dieu potier qui fabrique. Hein. C'est un peu le créateur. Celui qui fait l'humain. Donc Khnoum, c'est un dieu assez sympa.
On n'a pas... On ne comprend pas pourquoi.
Ça, je le sais.
La cosmologie ouais. Égyptienne.
Ouais. Parce qu'il naît au printemps. Donc voilà, c'est le printemps, c'est la création.
Peut-être. C'est quelquefois. Ce que vous dites n'est pas forcément faux. Dans la culture égyptienne, il y a encore une fois, bon, on va le voir tout à l'heure, on l'a déjà vu, mais beaucoup de pragmatisme. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut quelquefois pas aller chercher midi à 14h. Et les choses qui paraissent les plus subtiles, les plus... C'est-à-dire les pieds de jet, c'est pas compliqué, c'est sûr que les vertébrales sont un peu alignées, même pas... C'est pas... Voilà, ça va pas changer. Et alors évidemment, au cours des 3500 ans minimum de la culture égyptienne, le tronc du palmier est devenu ce qu'on a vu tout à l'heure, ou la colonne vertébrale. Donc évidemment, ça a connu des évolutions stylistiques, pourrait-on dire, hein, et de représentation. Hein. Mais vous voyez que la base est très simple. Les pieds de jet, c'est... C'est quelque chose qui tient, c'est un tronc de palmier, une colonne vertébrale, c'est donc très pragmatique, c'est vraiment l'idée du chenil, quoi, voilà. Et le pilier de Djed, C'est ça, finalement. Vous voyez, donc, quelquefois, on parle de choses très, très, très simples, très évidentes, très visuelles, qui sont imposées aux premiers Égyptiens vers 4000 avant notre ère, si vous voulez, et qui, voire plus d'ailleurs, et qui, petit à petit, sont devenus ces éléments qu'on voit maintenant. Et alors
là ? C'est l'affreux-sept, non ?
Pardon ?
C'est pas l'affreux-sept ?
La quoi ?
L'affreux-sept.
Ah, l'affreux-sept ! L'horrible frère d'Osiris.
Avec le masque, c'est pas.
Ah, une espèce de masque grimaçant épouvantable, ouais.
Non, c'est pas lui.
Ah, ben je sais pas.
Ah, ben. D'un Indien.
Un coin d'Indien, oui, oui, on est encore chez les Aztèques, là. Hein.
Oui,
ouais,
ouais.
Hein.
Avec ses plumes sur la tête. Hein.
Oui, on a là une figure amusante, parce que, alors c'est tout à fait égyptien, mais c'est un côté plus ou moins orientalo, précolombien.
Ah, ouais, hein, ouais. Voilà. Ouais.
Mais c'est tout à fait égyptien.
Mais il est accroupi.
Pardon ?
Il est accroupi.
Oui, il est plus ou moins accroupi, comme ça.
Une grenouille.
C'est une sorte d'une grenouille, il a des plumes sur la tête. C'est quoi ce truc ? Il nous fait penser à quelqu'un ? Qu'on aurait déjà vu ?
On
a tout à l'heure. Qui s'appelle comment ?
Ptahpatek.
Il nous fait un peu penser à Ptahpatek. Mon frère Ptahpatek était plus sympa. Hein.
Oui. Oui. Hein. Bah, c'est peut-être le sous-dieu.
Ah, c'est peut-être le sous-dieu, mais de qui ?
De Set.
Ah, ce serait le sous-Set.
Le sous-Set.
Set Patek.
C'est pas une sous-Set.
Le sous-Set.
Oui, mais c'est pas une divinité protectrice.
Non, donc là, on serait devant une divinité mauvaise, méchante, négative, une sorte d'avatar de Set, comme on avait l'avatar de Ptah tout à l'heure.
Mais non, mais non.
Ça vous va tout ça ?
Non.
Ça vous va ?
Non.
Alors, ceux à qui ça ne va pas ont-ils des arguments inverses ?
Ben non.
Non.
Il viendra.
Il viendra.
C'est un animal, non ? On dirait un singe.
Ah, il a un côté cinéaste. Hein.
Mais moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce qu'il a ces sortes de plumes
sur... Ben oui, une espèce de plume.
C'est, il doit y avoir une raison.
Ah, sûrement. Si seulement on savait laquelle.
Alors là, ça
donc, on est là devant une espèce de gnome qui a un côté cinéaste, qui fait des grimaces pittoresques. Il nous fait penser à Ptahpatek, mais en pire. On a l'impression d'une figure mauvaise, méchante, désagréable, pénible. Hein ? Tout le monde.
C'est pour effrayer l'ennemi. On sort pour effrayer.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est là devant une figure qui est là pour effrayer l'ennemi. On est devant une amulette qui a pour but d'être protectrice. Mmh. Si vous mettez que des gentilles petites touiris, d'ailleurs, vos touiris, elles ouvrent quand même la gueule. Hein. Mmh. Mais enfin, bref, il vous faut quand même des choses qui, parfois, peuvent agir, quoi. Hein. Et en fait, ce personnage que l'on appelle Bess.
Ah oui.
Bess. B-E-S. Avec un accent aigu. Bess est une figure, effectivement, simiesque, grimaçante, et ça, qui est là pour vous protéger. Parce que si on vous protège avec des petites figurines bien mignonnes, ça ne va pas faire mon feu, si vous voulez. Hein. Il vous faut des figures qui, au contraire, sont tellement horribles qu'elles vont permettre, une nouvelle fois, d'éloigner le mauvais œil. Hein. C'est pourquoi, en France, au Moyen-Âge, on mettait des monstres sur les églises. C'est le meilleur moyen d'empêcher que les mauvais esprits entrent dans les églises. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, Bess est une divinité absolument charmante, sympathique, gentille, favorable pour vous. Ayez des Bess avec vous, c'est tout à fait bien. Et qui baisse n'arrête pas de faire les grimaces les plus épouvantables, les plus simiesques, pour protéger. Parce que s'il ne les fait pas, vous n'êtes pas protégé. Donc Bess, il est très sympathique. Tout le monde a des Bess. Là aussi, vous allez en voir partout. Bess, c'est la figure favorable. Et encore une fois, plus il est horrible, plus il est protecteur, et mieux ça marche. Donc Bess, c'est super.
Mais ça n'explique pas les plumes sur la tête. Hein.
Et ce n'est pas d'explication, je n'en ai lu nulle part. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a des plumes. Ça rentre dans son accoutrement. Il y a sûrement une raison au départ, hein, mais j'ai vu nulle part. Enfin, à mon avis, il y a eu de la littérature là-dessus, hein, parce qu'il y a sûrement des travaux sur Bess en particulier. Dans ce que j'ai eu, moi, à voir, et alors je n'ai pas eu forcément d'ailleurs à demander aux égyptologues que j'ai croisés s'ils savaient, mais comme moi, je n'ai pas l'explication. Hein. Mais effectivement, tous les baies sont des plumes, comme ça, sur la tête, en espèce de coiffure, de coiffe de ce genre.
Est-ce que ça ne vit pas sous la terre? Auquel cas, ce serait des plantes qui...
Je pense que c'est vraiment plutôt des plumes. Tels qu'on les voit dans, chez d'autres. Mais bon, il y a sûrement, en tout cas, il y a des hypothèses, sûrement. Mais je ne saurais pas vous dire lesquelles. En tout cas, voilà, c'est baisse. Donc ça, c'est un chic type. Et là,
un taureau.
Là, vous voyez, on est dans une toute petite amulette. Vous voyez comment, quelquefois, ça peut être vraiment très rudimentaire. On n'est pas là devant le très beau tot de tout à l'heure. Voilà, c'est très stylisé. C'est avec trois coups de je ne sais pas quoi. Et voilà, c'est réglé. Donc, ce n'est pas toujours des choses. On sent vraiment qu'il y a de la production. Donc, un taureau, très bien. Qu'est-ce que ça... Alors, vous connaissez peut-être son nom.
Apis.
Apis, c'est le dieu taureau, là, qui est un dieu qui évoque quoi? Oh, ça, c'est assez évident, je crois.
La force,
la puissance. Et puis autre chose aussi.
L'obstination.
Oui.
Les travaux agricoles.
Oui. Ça va un peu avec la puissance, peut-être, ça.
La lutte, peut-être, non.
Oui.
Non.
Pas trop. Enfin, tout est dans tout, mais... Donc là, la puissance, la force. Mais quand même, un taureau, ça sert à quelque chose. Ça, aux travaux des champs, etc. Mais ça, ça rentre dans sa puissance. Si vous labourez un truc, vite fait. Bon. Et quoi d'autre? Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une dimension de fertilité chez Apis. Donc, effectivement, Apis, c'est aussi ce dieu-là, le dieu de la fertilité, le dieu de la procréation. Donc, tout ça, c'est important chez lui. Donc, le taureau Apis. Super.
Ah, ça change. Ça, c'est Isis avec son
fils. Alors, on aurait Isis. Qu'est-ce qui va vous faire connaître Isis?
C'est
son chapeau. Son chapeau, c'est quoi d'ailleurs?
D'habitude, elle est avec deux espèces de cornes et puis là, la lune au milieu. Mais là,
c'est vrai. Oui. Souvent, Isis a effectivement les cornes et avec un cercle au milieu. Alors là, ce n'est pas le cas, mais si vous avez raison, c'est une autre manière de présenter Isis. Les deux cornes, c'est quoi d'ailleurs?
C'est la
oui. Hathor. Voilà. Souvent, elle est les deux cornes d'Hathor sur la tête. Et puis au milieu,
le soleil
qui s'appelle Ré ou Ra. Bien. Alors là, ce n'est pas le cas. Ils sont compliqués, les dieux égyptiens, parce que vous voyez qu'un même dieu et une même déesse peut être représenté de manière différente. Alors, et encore, là, on a de la chance, au moins, c'est toujours la même figure. Mais ce n'est pas la même coiffe. Alors, cette coiffe, c'est quoi?
Ça ressemble à la coiffe pharaonique.
Ah, oui. Ben, c'est pas
bon,
ça.
La hauteur, mais pas la forme.
Oui.
Au milieu, là, bien au-dessus du nez, il y a une tête de serpent.
Oui, c'est ça, l'Uraeus. Oui, qui est effectivement une tête de serpent, de cobra, que l'on voit très souvent, qui a l'air qu'elle. Une fois de plus, quel sens? Uraeus. Enfin, Uraeus, on pourrait dire. Uraeus. De protection, encore une fois. La tête de cobra, comme on voit par exemple sur souvent des bas-reliefs ou même des sculptures, et notamment des portraits des pharaons. Uraeus est là parce que c'est aussi un élément de protection, un élément protecteur. Donc elle est là, bien. En fait, cette espèce de coiffe qui est là, on la retrouve dans la statuette à quel niveau?
Son siège.
Oui, voilà. En fait, c'est l'équivalent de son siège. C'est-à-dire que la coiffe qui est là, c'est un peu une double du siège sur lequel elle est assise. Et il se trouve que l'un des hiéroglyphes pour le mot Isis, c'est justement ce siège. Donc elle porte son hiéroglyphe sur sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut voir aussi ces statuettes comme, quelquefois, des mots, des phrases. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que c'est Isis parce qu'elle a Isis sur sa tête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est Très pragmatique. Bon, mais c'est donc Isis. Ok, c'est Isis, mais qu'est-ce qu'elle fait là?
Elle allaite
en russe. À quoi vous le reconnaissez? Tout à l'heure, vous voyez qu'il était faucon en russe.
Oui, oui.
Ouais. Et là, vous voyez qu'il a une tête de faucon?
Non, il change.
Alors, effectivement, Horus, il change. Donc, on l'a vu, les dieux égyptiens, c'est pas un dieu qui, du début jusqu'à la fin, d'ailleurs, les dieux, il n'y a pas de début et de fin, mais reste le même. Horus, il peut être représenté de différentes manières. D'ailleurs, souvent, quand il a cette représentation humaine-là, il est appelé autrement. Ce Horus jeune, bébé, pourrait-on dire, il est appelé d'un mot, d'un nom, qu'on emploie plutôt à la période vraiment tardive. Notamment les Grecs l'appelaient comme ça. Vous savez quel est le nom qu'on lui donne? On l'appelle souvent Artocrate. Non. Vous dites quelque chose, ça?
Non.
On l'appelle souvent Horus Artocrate. Artocrate, c'est, dans la fin de la culture égyptienne, le nom que l'on donne à Horus jeune. Hein. D'ailleurs, souvent... Alors, et qu'est-ce qu'elle fait là, avec Horus Artocrate, lui dit?
Elle veut l'allaiter.
Elle veut l'allaiter. Hein. Donc souvent on appelle ces Isis, que vous verrez là aussi en très grand nombre, on appelle ça des Isis lactances, parce qu'elle est en train de donner à manger, enfin boire du lait. Voilà. C'est une Isis lactance qui est en train de nourrir son fils Horus Artocrate. Hein. Ok. Ce petit bébé qu'elle a sur les genoux, il a peut-être deux choses encore qui le caractérisent. Ça se voit plus ou moins bien, mais ça se devine quand même. Il a...
Fausse barbe.
Alors, il en a... Non, il n'a pas de barbe, lui.
Non, mais il nous regarde plutôt.
Alors, il nous regarde plus ou moins, oui.
Il est trois quarts, au lieu d'être face à sa mère.
Ben, disons que... Il regarde... les regards sont... Oui, il y en a un qui va là et l'autre qui va par là. Figurons, les deux regards sont perpendiculaires, pour dire. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a noir et blanc, là?
C'est cassé, là, un peu, hein. Ouais. Oui. Non, je pense que les jambes devaient un peu se poursuivre et que, visiblement, la frite, enfin, la faïence, ici, est cassée. Hein. Mais il y a deux éléments. Alors, vous parliez de barbe. En fait, il n'a pas de barbe, mais je vois ce que vous prenez pour une barbe, c'est ça.
Oui, c'est son bras.
C'est son bras. Et qu'est-ce qu'il fait avec son bras?
Il tient le menton.
Il fait plus.
Il ne met pas sur la bouche?
Oui, c'est ça.
Il fait chaud.
Il a ce geste-là, ce geste du silence, pourrait-on dire. Pourquoi? Ne me demandez pas, je ne le sais pas. Mais Harpocrate est souvent représenté comme ça, avec le doigt sur la bouche. Vous savez que la parole, c'est un peu comme l'écriture. C'est en Égypte un élément très important par rapport à l'existence même. Voilà, donc est-ce que c'est lié à ça? Peut-être lié aussi au fait qu'il est jeune, il est tout petit, c'est un bébé. Hein. Il n'est pas encore... Enfin, il est un être à venir, ces choses. Peut-être est-ce ça. Donc, il a, comme tous les Isis jeunes, comme tous les Artocrates, le doigt comme ça sur la bouche. Il y a autre chose aussi, peut-être, que vous devinez.
Il a une capuche.
Voilà, il y a quelque chose là, c'est quoi ça? Il ressemble à une capuche, mais qui n'en est pas une.
Des cheveux?
Oui.
Ah, la tresse des cheveux.
Voilà. Il a une tresse sur le côté. Parce qu'en fait, dans l'Égypte ancienne, un enfant qui n'est pas encore entré dans l'âge adulte a une tresse comme ça qu'il garde sur le côté qu'on lui coupe au moment où il entre dans l'âge adulte. Donc, Artocrate, Horus jeune, a une tresse sur le côté qui montre bien son état de jeune. D'accord ? Voilà. Donc, quand vous verrez ça, vous verrez très très souvent des Isis lactans. Hein. Et vous verrez toujours ça. Toujours. Vous remarquez qu'elle a sa coiffe tripartite, hein, notre Isis. Voilà. Isis allaitant Horus, Horus Artocrate. Bien.
Ah, abstrait.
C'est une pierre. C'est abstrait. C'est en pierre, absolument. Nous sommes devant la faïence.
On dirait que c'est une pierre fendue, mais non.
Fendue.
Oui, parce que.
Disons qu'elle a été taillée pour qu'il y ait effectivement une espèce de strie centrale, vous avez raison.
C'est luisant.
Hein?
C'est luisant.
C'est luisant, c'est une pierre polie, absolument. Un peu comme notre bastède de tout à l'heure. Sauf que là, c'est pas de la. D'ailleurs, je ne sais pas pas si
c'est de la phonolite.
Je ne sais pas ce que c'est.
Basane.
Je ne sais plus si je l'ai marqué sur la.
Très très dense.
Oui, oui.
Basane.
C'est peut-être. Je ne sais plus si je l'ai marqué. On va voir dans un instant sur la. Mais je ne veux pas vous la passer tout de suite. Autrement, je vais vous dire ce que c'est.
Par contre, il y a des traits.
Il y a des traits.
Oui.
Très réguliers. Il y a chaque fois quatre.
Oui.
Deux fois quatre.
Et pas symétrique.
Pas symétrique.
Décalé.
Ouais.
Donc, puis les morceaux aussi sont décalés.
Ouais.
C'est encore un palmier.
Oui, ça pourrait faire penser
au palmier.
Quatre machins du pilier de jet.
Ah. Donc ce serait un pilier de jet un peu spécial.
Non, mais ça fait penser.
Ça fait penser à.
Quatre machins.
Là. Oui, aux quatre étagères supérieures.
Oui.
De l'étagère. Bon. Vous avez d'autres idées ? Alors, je peux vous dire que ce n'est pas ça, mais...
On s'en doutait un peu.
Vous en doutiez. Qu'est-ce que ça peut être ?
Ça peut être une manière de compter. De compter.
Oui. De compter.
Un message codé.
Un message... Oui, c'est codé. Ouais. Effectivement.
Une barre de papier.
Ça fait un peu penser à ça. Ce sont des doigts.
Il y en manque.
Ah,
deux
doigts.
Ah,
oui, c'est ça. Ah, oui. Ce que vous avez là, c'est les phalanges.
D'accord.
C'est intéressant ce qu'on voit comment un thème qui est au départ oui, très réaliste peut petit à petit venir s'échapper vraiment de son modèle. C'est comme le pilier de jet. Ça ne ressemble pas trop à un palmier. Enfin, a priori, voilà. Hein, là, c'est pareil. On reconnaît les phalanges. Ah, enfin, bon. À quoi ça pourrait servir, ça ?
Mesure ?
Ouais.
Bah non, pour protéger la ville. Non, c'est pour protéger ceux qui travaillent la pierre, pour protéger leurs doigts.
Ouais, pourquoi que deux doigts ?
Il vaut mieux en avoir plus.
Ah oui.
Parce qu'il en restait après.
J'ai eu un accident.
Ouais.
Il a coupé les autres doigts.
La pâté qui n'était pas là. C'est là.
Ça pourrait éviter les accidents.
En fait, c'est très lié, ces deux doigts, à la question de la parole. C'est-à-dire que, ouais, les deux doigts, la position des doigts sur la bouche était un élément qui, notamment au moment de l'embaumement, puisque c'est pas un truc d'embaumer le corps, etc., mais il faut après qu'ils revivent, hein, est un élément qui relibère la parole, si vous voulez. C'est sans doute d'ailleurs quelque chose qui nous est dit par la sacrée précédente, vous vous rappelez d'Hippocrate, il avait le doigt sur la bouche. Hein. Donc la relation doigt-bouche... Il y a quelque chose d'important par rapport à cette question d'acquisition de la parole aussi. Hein. Donc ces doigts sont des doigts que l'on trouve souvent, par exemple, sur les momies, qui sont là pour décidément rétablir la parole à celui qui ne l'a plus. OK ?
Mais pour nous, les doigts devant la bouche, c'est plutôt le silence.
Oui.
C'est plutôt
alors c'est l'obsidienne. Voilà. Oui, alors, sauf que j'ai vraiment un doigt et pas deux. Hein. D'ailleurs, Hippocrate mettait bien un doigt dans la bouche. Hein. Mais vous verrez des scènes funéraires où on voit, alors qu'une fois avec un sceptre, une divinité qui vient redonner la parole au défunt pour qu'il la recouvre, eh bien, les doigts sont une espèce d'élément permanent qui permet de redonner de manière définitive, en quelque sorte, aux morts la voix. Ils sont utilisés dans les rituels mortuaires pour restituer la voix aux morts. Il doit y avoir une raison, dans ce que j'ai lu, je n'ai pas trouvé la raison d'origine. Hein. On va s'agir que c'est ça, en tout cas. Le doigt est là, dans le rituel, pour restituer la voix.
Parce qu'ils auraient pu plutôt mettre la langue. Ça aurait paru plus évident de mettre une langue en forme d'amulette pour refléter la parole. Alors pourquoi le doigt ? C'est curieux.
C'est
on touche la bouche.
Parce que c'est comme ça.
C'est comme ça.
Voilà.
Il y a certainement une raison de base. Bon, c'est tout le problème aussi, c'est la culture, hein, qui est, comme une fois, extrêmement longue. Hein, on a vu la dernière fois. Hein, c'est à minima 3500, 4000 ans. C'est-à-dire, en gros, le double de ce que nous connaissons depuis les Gaulois. Si vous voulez. C'est donc énorme. Quoi, hein. Et il y a des quantités de choses sur lesquelles il y a des supputations, des idées ou rien. Voilà. Alors, évidemment, je pense qu'il existe sûrement dans l'énorme bibliographie qui a été produite depuis au moins 2 siècles sur l'Égypte, il y a sûrement eu des études là-dessus, hein, qui doivent pouvoir dire, bah, tiens, en l'occurrence, moi, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a effectivement certainement des supputations, des hypothèses qui disent pourquoi deux doigts, pourquoi ce lien avec la parole, la restitution de la parole, il n'est pas évident a priori, c'est vrai. Alors ça, c'est plus évident. Isis ?
C'est
sacré. Eh bien voilà, c'est Sermet. Alors on dit plutôt Sermet, hein, le K étant un R. Sermet. Hein. Voilà. Vous pouvez peut-être la caractériser, cette Sermet, en 2-3 mots.
Elle
est hiératique. Oui, sur thème. Hein. Pas envie de trop d'aller l'embêter. Hein. Mais encore une fois, Sermet qui est. Qui est donc Sermet,
c'est
une déesse. On a un peu parlé d'elle tout à l'heure, on a dit quoi?
C'est la fille de Ré, non?
Pardon?
C'est pas une des filles de Ré?
C'est une des filles de Ré, c'est une des filles du soleil. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui vous. Il y a quelque chose qui vous. Elle a le soleil sur la tête. Hein, le disque qu'elle a sur la tête, c'est avec l'Uréus. Vous connaissez l'Uréus? Hein, c'est quelque chose qui montre bien ses filiations. Elle a une perruque tripartite. Ça roule. Hein. Elle a toujours cette robe très moulante. Hein. Et c'est une. C'est, si vous voulez, l'équivalent de Bastet, mais en plus contondant. Hein. Donc elle peut être tout à fait favorable. Elle a une dimension de protection, c'est Sermet. Hein. Mais c'est aussi la déesse de la colère. Hein. Donc, doucement. Hein. C'est une divinité. À la fois favorable, mais qui peut être très farouche, violente. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces divinités n'ont pas une sorte de calme plat. Sermet est vraiment plus que d'autres une divinité un peu à deux visages, pourrait-on dire. Hein, voilà. Enfin, on en avait déjà un peu parlé tout à l'heure, en parlant de Bastet.
Voilà.
À quoi ça ressemble, ça? Donc, ça montre que, on l'a dit tout à l'heure avec Apis, hein, mais beaucoup de ces amulettes sont, encore une fois, un peu vite faites. Hein. Qu'est-ce qu'on devine, là? Compliqué, hein? Je voulais vous en montrer des comme ça aussi pour pas voir que le jour des choses impèrent, qu'on voit tout de suite. Hein.
Il y a peut-être un visage au milieu?
Oui, là, il y a un visage. Effectivement.
Un visage avec la barbe?
Oui, il a une barbe.
Des bras croisés.
Alors, des bras croisés.
Bras croisés.
Comme ça?
Oui, quelque chose comme ça.
Vous les voyez où, les bras croisés? Non, ça. Sous la barbe?
Oui,
sous la barbe. Là, il y aurait des bras croisés sous la barbe.
Non.
Non. Au-dessus de la barbe?
Non, mais comme ça.
Non, comme ça. Comme ça? Ah oui, d'accord. Donc là, il a les bras comme ça. Chop. Avec les mains là. Ouais. C'est ça? Comme ça, c'est une cuisinière en fait. Hein. On va faire son pot-au-feu là. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a en bas là?
Qu'est-ce qu'il y a en bas?
Oui, en bas, ça fait assez bizarre.
Ouais.
C'est pas
du
aussi uniforme.
Non, c'est pas cassé, mais c'est pas très bien fichu. Quoi. Il est pas uniforme.
Non.
Non.
Bah non, qu'est-ce qu'il a les...
Enfin, il a les bras comme ça.
Il a les bras comme ça.
Qu'est-ce qu'il a sur la
tête? Oui, il a les bras comme ça.
Non, mais tout autour, c'est quoi?
Compliqué, hein. Oui,
parce qu'on dirait une chose qui est en saillie en bas, comme un sac.
Oui, hein. Oui, oui, c'est en saillie en bas.
Oui.
Hein?
Voilà.
En saillie, ça.
Ce serait donc un objet qui porterait.
Porterait un objet.
Un vendangeur.
Un vendangeur, avec ça, sur le dos.
Sur les jambes.
Ah, ou devant. Quand même.
Non, on dirait une tête d'animal.
C'est son casse-croûte.
Ah, son casse-croûte, un animal.
Une tête d'animal tout le long.
Presque une chèvre qu'il aurait sur les épaules, non?
Ah. Oula. Je pense qu'on va se calmer.
Non, on n'a rien vu, hein.
Alors, je vous dis ce qu'il en est. Alors, en fait, vous avez un personnage, mais qui est agenouillé. Alors, je ne vais pas m'agenouiller parce qu'à mon âge, on ne s'agenouille plus, mais. Il a un genou en terre, le genou droit, et l'autre comme ça. Ce que vous voyez là, c'est...
Ah,
son genou gauche, si vous voulez. Ça, c'est son pied. Voilà, la jambe et le genou. Et l'autre genou va être agenouillé par terre. OK ? Donc, il est agenouillé comme ça. Je ne fais pas
le grenouillage. C'est pas évident.
Ensuite, ben, vous avez le torse et les bras. Il n'a pas les bras comme ça, il a les bras comme ça.
Il tient.
Il est élevé comme ça. Hein. Vous voyez là les bras, les coudes, et là-haut, c'est les mains. Et il tient dans la partie supérieure un disque qui n'est autre que Réra. Voilà. Et alors, en fait, ce personnage que vous avez là, c'est le génie Hei, H-E-H, que souvent, d'ailleurs, on rapproche d'un dieu qui s'appelle le dieu Chu, comme un chou, comme chou, C-H-O-U. Hein. Voilà. Mais le génie Hei est en fait un génie qui tient le ciel en étant sur Terre. C'est lui qui permet qu'il y ait le ciel en haut et la Terre en bas. Geb en bas et Nout en haut. Nout, c'est le ciel, Geb, c'est la Terre. Et donc, Hei est celui qui tient tout.
C'est Atlas, quoi.
En quelque sorte. Une sorte d'Atlas, sauf qu'Atlas, il tenait la Terre. Mais là, il tient plutôt le ciel. Enfin, il permet que le ciel soit au-dessus de la Terre. Hein. C'est un génie Hei. Quelquefois, d'ailleurs, on parle de quatre génies Hei, mais il est souvent représenté tout seul. Bon, bref, il y a des tas de variantes. Hein, sur 4000 ans, c'est normal. Voilà, génie Hei, vous en verrez beaucoup aussi. C'est, j'allais dire, quelqu'un qui est un peu garant de l'univers. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui, puisqu'il tient le ciel par rapport à la Terre, voyez, et fait partie d'un des éléments structurants de l'univers entier. C'est le génie Hei. Quelquefois, on l'appelle Hei, d'ailleurs.
Heureusement qu'on a l'explication.
Hein. Avant mieux, oui.
Non, mais les Égyptiens, ils étaient comme les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête.
Ben, oui, je crois que toutes les cultures sont comme ça. D'ailleurs, nous, on a un peu peur de ça en ce moment, bien remarqué.
On aurait peut-être qu'on est Égyptien.
Ouais. On ne fait rien pour, d'ailleurs, mais enfin, on ferait bien d'avoir un peu plus peur, à mon avis. Je crois que ce serait plus mal. Nous qui sommes des Gaulois, paraît-il, réfractaires, on ferait bien de l'être un peu davantage, à mon avis. Mais bref, c'est une autre question. Voilà, le génie Hei, donc, hein. Alors vous en verrez beaucoup, hein. Quelquefois de plus visible que ça. D'autres fois, là, vous voyez une amulette faite un peu à l'arrache, pourrait-on dire. Hein. C'est pas très lisible, mais souvent, quand on a des collections égyptiennes, il y a comme ça des amulettes très bien, d'autres beaucoup plus frustes, pourrait-on dire. Et des fois, c'est assez amusant d'essayer de voir de quoi il s'agit. Et vous voyez dans les musées beaucoup de choses comme ça, des choses qui sont un peu informes, mais si on sait quels sont les codes, tout comme nous, vous savez, avec nos saints, on sait, je sais pas, que Saint Jean-Baptiste a l'agneau, on sait que, je sais pas, Sainte Lucie a ses yeux, etc. Voilà, quand on connaît ces codes, après on retrouve, ben là c'est pareil. Génie Hei, il est comme ça. On a encore.
On tient encore un pull.
Ouais, alors ça c'est quoi? On va aller un peu plus vite parce qu'il est moins 10. Mais bon,
c'est encore un
baisse. C'est encore un baisse, voilà. Sauf que là, vous avez simplement sa tête. Hein. Vous voyez que vous avez examiné avec baisse complète. Vous pouvez alors baisse sous forme de ce qu'on appelle une égide. L'égide, c'est une sorte de plastron. Hein. Voilà, là, il n'y a que ça. Il n'y a que la tête de baisse. Il n'y avait pas le reste. Hein. C'était, baisse était résumée par sa tête. Hein. C'est bien aussi. Et ça?
Ça ressemble
au... à la
colonne papiforme.
Qui s'appelle
Djed.
Ça ressemble au pilier de Djed. Mais ça n'est pas un pilier de Djed. D'ailleurs, vous n'avez pas vos quatre étagères. Pardon?
Les colonnes papiriformes.
Oui, absolument. Voilà. Effectivement, vous avez raison de le dire, parce que ça, en fait, ça ressemble à un papyrus. Regardez la partie supérieure. Hein. Ça ressemble à, vous savez, cet évasement papiriforme. Il y a des colonnes comme ça, hein, qui sont effectivement papiriformes. Alors le papyrus, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus diaphane, la partie supérieure. Hein. Et là, ce que c'est impossible à sculpter, c'est évoqué de cette manière-là. Bien. Donc on a effectivement quelque chose qui évoque l'idée du papyrus. Donc l'idée, c'est quoi derrière ça?
Le papyrus, c'est l'écriture.
L'écriture, oui.
Oui.
Oh non, c'est là. Ça me fait penser aux colonnes, donc c'est un soutien.
Oui. Et puis l'idée du végétal, c'est quoi quand même?
C'est le symbole de l'Égypte.
Oui. Oui, c'est ça, c'est le renouvellement. C'est-à-dire que végétal, vous coupez, ça repousse, il n'y a rien, ça peut se couvrir, enfin voilà quoi. Hein. Donc c'est toujours, vous savez, il y a cette grande idée en Égypte quand même, hein, qui est fondamentale, de l'eau qui, une fois par an, vient inonder, donc donner du limon fert, etc. Donc le papier, c'est quelque chose qui est évidemment très symbolique de l'Égypte, hein, mais qui vient, je veux dire, évoquer cette idée de pousse, de sortie en quelque sorte. Hein. Donc, Wap, je ne sais plus ce que c'est son nom, c'est une colonnette, hein, la colonnette Wadj, qui évoque ça, hein, qui évoque, et on n'est en effet pas très loin du pilier de Jatte quelque part, hein, et ne confondez pas la colonnette Wadj avec le Gujat. Hein.
Oui.
Pas pareil, hein, c'est Wadj, ça. Hein. Donc c'est en effet une évocation du papyrus, qui est cette grande idée de la végétation qui meurt, qui pousse, qui repousse, on la coupe, ça pousse quand même. Bon, voilà. Donc on est là dans une espèce de vision de la vie perpétuelle, pourrait-on dire. Hein. Facile. On dure encore 10 minutes, ça vous va?
Oui,
oui.
Isis,
à quoi vous la reconnaissez?
À son petit chapeau.
À sa coiffe, je dirais plutôt. Parce qu'elle est effectivement sa coiffe qui est son hiéroglyphe. Hein, vous la reconnaissez? Facile. Vous voyez, quand on a ça en tête, on peut reconnaître tout. Quoi. Au bout d'un moment, ça devient un jeu. Quoi. Hein, on est devant Isis. Comment vous la reconnaissez? Le reste est identifiable.
Ah. Ah oui, un éléphant.
Ça pourrait, mais c'est pas.
C'est un animal.
Un animal. C'est pas un éléphant.
Un dromadaire.
C'est pas un dromadaire. Elle est courte sur pattes, cette bestiole.
Un cochon.
Et même une truie. C'est une truie.
Ah d'accord.
Hein, vous connaissez notamment la tête, est assez. Pour fréquenter pas mal de cochonnes, puisque j'en ai deux moi-même, qui sont charmantes. Olympe et Aurore.
Et qu'est-ce qu'il y a sur le dos?
Ben, c'est la bélière qui permet de suspendre les nerfs.
Ah,
voilà. Alors, pour tout vous dire, je vous le dis parce que c'est pas. C'est une truie qu'on appelle la truie de Nout. Nout, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quoi?
C'est le ciel.
C'est le ciel. Hein, c'est là. Nout, elle est quelquefois représentée, on aura peut-être l'occasion de la voir, une espèce de femme qui est comme ça, je ne vais pas me mettre par terre. Enfin bref, qui fait une sorte de dôme sur la terre. Voilà, hein. Et donc, elle a comme animal, je dirais, associé la truie que vous voyez ici. Alors, je vous dis quand même la raison qui est assez marrante, c'est que Nout, c'est le ciel, c'est ce qui est au-dessus de nous. Or, Nout, chaque jour, avale. Enfin, si vous voulez, le soleil passe sur Nout, mais ça, chaque jour, elle l'avale, puisque le soleil fait le tour, vous voyez, de la route céleste. Voilà. Et le soleil renaît ensuite. Hein, voilà. Et tous les jours, donc, ça se passe comme ça. Hein. Or, on a visiblement associé la truie à Nout, parce que les truies sont des animaux qui sont capables de manger leurs petits. Et donc, il y a eu cette espèce d'assimilation, puisque nous tout mangeons sur les soleils, mais qu'elles régurgitent après pour qu'ils reviennent, et c'est toujours comme ça. On a associé la truie à Nout. Pardon ?
Sauf que le soleil, c'est son grand-père, c'est pas son fils.
Oui, absolument, tout à fait. Ouais. Mais elle est capable de manger comme, oui, quand même. Voilà. Donc, alors, il y a peut-être aussi une chose, c'est que les truies, vous savez, ont des. De très nombreuses mamelles, qui sont peut-être une évocation des étoiles aussi. Parce que Nout est couverte d'étoiles, et la truie l'est aussi, d'une certaine
manière. On va regarder différemment les truies maintenant.
Ah, bien sûr, bah, j'en ai deux très belles, charmantes, et si vous voulez venir les voir, vous les retournerez, c'est pas facile. Elles se laissent pas faire, mais elles sont charmantes, elles sont très mignonnes.
Vous allez les manger?
Ah non.
Oh non. Quelle question!
Non, 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 non. Voilà la truie de Nout. Encore une fois, je vous la montre, il y en a beaucoup plus évidentes, plus belles, hein, mais je trouve bien de montrer aussi des amulettes un peu moins. Voilà, bon, on va continuer un petit peu vite, on est presque vers la fin. Ça, c'est qui? Horus, c'est bien. Horus, vous reconnaissez avec ce qu'il a sur la tête, hein?
Chalit.
Hein, oui, alors, c'est pas le chalit.
C'est
les couronnes de Pharaon, voilà. Hein. Voilà, les couronnes de haute et basse Égypte. Hein. Voilà. Basse Égypte, c'est la couronne qui est en bas, Égypte, c'est la couronne qui est en haut. Hein. Il a donc, et donc l'une est prise dans l'autre. Il a donc les deux couronnes sur la tête, et c'est effectivement Horus. Il est le descendant et le successeur d'Osiris. Hein. Il a été pharaon lui-même. Il est donc logique qu'on lui voit ces deux couronnes en question. Hein. Très belle représentation d'Horus. OK ? Ça va, pas compliqué. Un repose-tête, c'est ça. On appelle ça souvent un chevet, hein. Voilà. Alors, pourquoi ça? C'est en pierre, d'ailleurs. C'est pas en frites, hein. C'est pas en faïence. En pierre polie, vous savez, comme on a vu déjà plusieurs.
Pour bien dormir, qu'il ne fasse pas de cauchemars. Protéger des cauchemars.
Non. Moi, je pense que ça terrible.
On va mettre des coussins.
Dans les tombeaux, non?
Alors, effectivement, dans les tombeaux, généralement, le mort est toujours accompagné de chevets, de repose-têtes de ce genre. Hein, parce que le repose-tête fait partie des éléments qui sont nécessaires au passage du sommeil au réveil, si vous voulez. Hein. Donc, le repose-tête est devenu une sorte de vieille amulette. Celui-là est grand comme ça, hein, c'est tout petit, qui évoque, si vous voulez, cette idée. Nécessaire. Vous savez que le défunt, il ne meurt pas, puisque il continue sa vie après. D'ailleurs, il est avec des ouchettis qui font le boulot à sa place. Vous vous rappelez de tout ça, hein? Donc, il faut qu'il ait... Si vous voulez, le repose-tête est un élément symbolique qui vient évoquer la vie future du défunt. Le futur défunt, c'est aussi le sommeil et l'éveil. Et bien, le repose-tête est là pour l'évoquer.
Oui. J'ai vu chez les loulous.
Oui.
Des trucs comme ça.
Absolument.
Ça va pour dormir.
Tout à fait. Absolument.
Un petit truc pour les pieds aussi.
Absolument. Il y a tout à fait ça. Il y a des tas de cultures, notamment, c'est vrai en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, c'est vrai en Extrême-Orient.
Au Japon, absolument.
En Chine, hein, les fameux ho-ho, vous savez, ces espèces de coussins en céramique. Voilà. On a ça également dans des cultures océaniennes. Enfin, voilà. Je me suis toujours demandé comment on pouvait dormir avec ça, mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, là, ça devient une amulette. Hein, c'est tout petit, donc c'est pas vrai, quoi. Mais c'est un objet qui est présenté en miniature pour évoquer cette dimension bien humaine du réveil, hein, du sommeil et du réveil. Oh, très vite, ça se prend très compliqué. Sur un lion. Alors, on a, notamment dans la culture égyptienne, le lion est important. On a vu Sermès, mais qui est une lionne. Là, c'est un lion. Et il est important, notamment, les lions sont censés être ce qui marque l'horizon de l'univers. Ne me demandez pas pourquoi, il y en a sûrement une, je ne sais pas. Voilà, lion.
Scarabée.
Un scarabée, effectivement. C'est toi. Scarabée, pourquoi ?
Parce qu'il est bon. Scarabée, ça porte bonheur.
Oui, mais pourquoi ? Alors là, par contre, la raison première est tout à fait bien connue.
C'est à Capernaum qu'il faut faire 7 fois le tour de la scarabée sacrée en faisant un vœu.
Moi, Lia, c'est
réalisé. Je l'ai fait.
Très bien. Je m'étais dit, il y a quelque chose derrière tout ça. C'était donc ça.
C'est un bousier.
Voilà, un bousier. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, il roule sa... son œuf dans de la mousse. Et donc, c'est la vie qui est entourée de l'alimentation. Et puis, voilà.
C'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, dans le désert, ces scarabées, qu'on appelle les scarabées bousiers, utilisent les bouses, notamment des dromadaires, hein, pour faire leur nid dedans. Et ils roulent les bouses en question. Et cet élément tout à fait naturel, ayant été observé par les premiers Égyptiens, si vous voulez, a été mis en rapport avec le problème du soleil, qui est ce rond qui fait la même chose dans le ciel, qui commence là, qui finit là, qui est une boule qui tourne, comme les bousiers font tourner la boule sur Terre. Donc il y a une sorte d'analogie, si vous voulez, entre le bousier qui roule sa boule, d'où sort plus la vie, et... le soleil qui roule une boule dans le ciel. Donc en fait, le scarabée devient sur Terre l'équivalent de ce qui fait l'énergie du soleil et qui permet au soleil de créer la vie, si vous voulez. Hein? Donc il y a une analogie entre l'un et l'autre. Donc le scarabée devient, dans la culture égyptienne antique, rien moins qu'un des éléments fondamentaux de la vie. C'est pour ça que souvent, le scarabée, qui est d'ailleurs souvent inscrit à l'arrière, hein? Par exemple dans les tombes, on trouve souvent des scarabées au nom du mort. Un peu comme les ouchettis, vous savez, hein, qui étaient souvent inscrits, on l'a vu. Et d'ailleurs, le scarabée peut, il est, j'allais dire, une sorte d'élément qui peut aussi évoquer l'idée du cœur. Hein. Si pour des ondes X ou Y, comme la modification ou autre, le cœur mais pas de bonne qualité haute, on peut mettre un scarabée à la place du cœur. Hein ? Scarabée, une sorte de double du cœur. Le scarabée est un élément important. Il est celui qui permet cette énergie du soleil, si vous voulez. Hein ? Il explique quelque part, le scarabée, la clé de l'univers. Donc le scarabée, il est fondamental. C'est que vous avez tant de scarabées dans la culture égyptienne. Quelque part, c'est un peu la clé. Ce scarabée. Et là, encore une fois, l'origine des premières est connue, ce scarabée bousier qui pousse les bouses avec ses œufs à l'intérieur dans le désert. Vous voyez, là, on a là c'est très, très pragmatique. Hein, on est parti de quelque chose de tout à fait réel pour en faire une dimension tout à fait religieuse. On continue encore 5 minutes. Une triade. Alors, vous reconnaissez certaines personnes.
Oui,
à gauche, Isis. À gauche, Isis, pas de problème. Maintenant, on la reconnaît, il n'y a pas de problème. Oui. Ensuite, au centre. Facile.
Osiris.
Oui. Osiris.
Horus.
Horus, il a la natte.
Il a la natte. Vous reconnaissez le Horus avec la natte. Oui. Hein, vous reconnaissez la natte qu'on a vue tout à l'heure. Horus, on l'appelle comment à l'époque tardive, gréco-romaine même. Harpocrate.
Comment tu écris ça?
H-A-R-P-O-C-R-A-T-E. Harpocrate. Harpocrate. Donc Horus, vous pouvez l'appeler Horus. Hein. Horus Harpocrate au centre. Voilà. Et à droite, ça on ne l'a pas vu encore. Oh, c'est un Osiris un peu féminin. Hein. C'est Nephthys. Vous vous rappelez que Nephthys est la sœur d'Isis. C'est donc aussi la sœur d'Osiris et la sœur de Seth. Vous êtes des frères et sœurs. Hein. Bon. Pardon ? C'est la tante d'Horus. Donc là, vous avez Tantine qui est à droite. Voilà. Alors, elle a sur sa tête, vous voyez, un truc qui est également son hiéroglyphe, comme Isis. Hein. Et alors, en fait, ce hiéroglyphe-là veut dire construction, palais, château, enfin, c'est quelque chose qui évoque l'idée d'une construction. Hein. Donc, c'est une sorte de tour, si vous voulez, qui est sur sa tête. Hein. Plus ou moins. Et qui est donc son hiéroglyphe. Donc, Isis, Horus Harpocrate, Nephthys. OK ? Voilà. Voilà. Vous avez Harpocrate. Hein.
Bon.
Une équerre. Pourquoi une équerre?
Parce qu'un homme nous architecte.
Voilà, c'est un élément qui est lié à l'architecture, effectivement. Et pourquoi est-ce qu'on met une équerre en amulette?
Pour la construction
Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'équerre, c'est quelque chose qui permet de faire un truc droit. Si vous construisez un truc comme ça, vous avez toutes les chances que tout s'écroule. Avec l'équerre, vous avez quelque chose qui tient le coup. Hein. Donc l'équerre, c'est un élément qui, dépassant même l'idée de la simple construction, construit l'existence. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc l'équerre, elle est là pour protéger une existence construite, on va dire. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle devient amulette, parce qu'elle est la garante d'une sorte de solidité. Je termine un peu vite. Ça passe vite, hein. Alors, c'est une pierre, je ne sais plus laquelle c'était marquée, je crois, mais c'est de la pierre, effectivement. C'est pas de la frite, c'est pas de la faïence. Et c'est quoi?
C'est le scarabée?
Non. C'est pas un scarabée.
C'est un insecte?
Non plus.
Ah. C'est une tête de quelque chose?
Non plus.
Un récipient?
Un cœur?
C'est un cœur. C'est une représentation du cœur. Le cœur qui vraiment, alors ça, ça vous étonnera pas.
C'est les oreillettes de chaque côté.
Oui. Et c'est de la cornaline. Le cœur est évidemment au centre de l'être. Hein, pour les Égyptiens, c'est le lieu de l'intelligence. Là, donc c'est le lieu parfait, c'est un peu comme pour nous. Hein. Donc le cœur devient, lui aussi, une amulette. Cornaline. C'est quoi?
L'œil.
Moi, je me sens égyptien. Oudjat. L'œil Oudjat. Hein. Maintenant, on reconnaît. Hein. Pas de problème. Maintenant, quand on verra une Oudjat, ça va rouler. Hein. Alors, ça aussi, vous le connaissez.
Oui, c'est le mouton, le bélier.
Le bélier qui s'appelle Khnoum. Khnoum. K-H-N-O-U-M. Hein. Retenez les noms égyptiens. Hein. On en aura besoin pour les séances suivantes. Hein. Khnoum. C'est le dieu potier, celui qui fait les ailes.
Ça, c'est la clé de vie.
Alors, ça fait penser à Ankh, qui est vivement l'idée de la vie. Mais c'est un peu différent. Parce que Ankh n'a pas ces deux éléments-là. Ça fait penser à quoi, d'ailleurs? Je crois que ça fait penser à ça.
Une écharpe.
Ça fait penser à une écharpe. Hein? Sauf qu'elle serait un peu nouée au milieu. Hein? En fait, ce que vous voyez là, c'est pas Ankh, ça ressemble, hein? On n'est pas loin, hein? Mais c'est Tit. Tit, c'est la ceinture d'Isis. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui évoque Isis à travers un des éléments de son vêtement, qui est sa ceinture. Donc, c'est un objet qui concentre les qualités d'Isis à l'intérieur de la ceinture. Tit, T-I-T. On appelle ça le nœud d'Isis. Mais c'est, effectivement, ça fait beaucoup penser à Ankh. Facile.
Crocodile.
Le dieu crocodile s'appelle comment ? Sobek. Hein ? Sobek, c'est dieu crocodile. C'est un dieu que vous caractériseriez comment ? Oui, alors il est un peu comme Sermet, hein. Il peut être favorable, effectivement, mais attention, hein. Sobek peut être également, voilà, il peut s'énerver, quoi. Hein. Donc Sobek comme Sermet, bon, on sait à distance, si j'ose dire. Hein. Donc il y a là devant un dieu qui peut être vu comme très favorable, etc., d'ailleurs on le momifie comme tout le monde, si j'ose dire, mais on se calme. Hein. D'un côté... quand même un dieu un peu contondant. Hein. Je termine un peu rapidement, ça vous le connaissez. Enfin, on l'a pas vu aujourd'hui. Hein.
Ah, c'est Anubis.
C'est Anubis.
Avec sa tête de chacal.
Voilà, avec sa tête de canidé en tout cas, ouais. Vous savez à quoi il préside, Anubis ?
À la pesée des âmes.
Voilà, et à l'embaumement, absolument. Hein. Donc c'est un dieu qui est fondamental et qui est complètement lié, effectivement, au rite funéraire. Hein. Vous le reconnaissez en tout cas. Ça aussi, vous le connaissez. C'est Thoth. Alors là, il est sous la forme d'Anubis. Tout à l'heure, il était simplement ibiocéphale, avec la tête d'Anubis. Là, il est complètement Ibis. Devant lui, vous voyez quoi ?
Une petite.
Ouais.
Ah oui !
Une petite dame accroupie. Et qu'est-ce qu'elle a sur sa tête ?
Ah, ben c'est Isis, c'est Isis.
Non, c'est pas Isis.
Non, c'est Lys, la sœur.
C'est pas Nephthys non plus. Zut. Il semble que cette femme accroupie que Thoth a devant lui, qui est une petite dame charmante, accroupie, et ce qu'elle a sur la tête, c'est une plume. Une plume qui tient debout sur la tête, comme ça, en équilibre. Pas facile.
Ah, c'est Maat.
C'est Maat. Maat, c'est une divinité qui, et d'ailleurs, c'est le fait que la plume tienne en équilibre sur la tête le montre bien. Et justement, cette divinité de l'équilibre. Hein. Maat, c'est l'équilibre parfait. Ça tient. Ça tient, c'est fragile, mais ça tient. Donc, vous voyez que Thoth, là, est lié à Maat. D'accord ? Je sais plus combien. Ah oui, on est presque à la fin. Un singe, très bien. C'est qui, ça ?
C'est le dieu qui préside...
C'est vrai que ce singe-là préside absolument aux activités des scribes.
Oui, et je cherche son nom.
Ah ben, il n'est pas compliqué.
Thoth.
Zut alors. Eh ben, Thoth, il peut avoir la force d'un babouin ou d'Anubis. C'est le même. Simplement, les deux égyptiens, encore une fois, c'est pas forcément simple. Hein. Il n'y en a pas un qui a toujours la même tête. Thoth, il est cynocéphale ou ibiocéphale. Et complètement ibis, on vient de le voir, ou complètement babouin. C'est Thoth. C'est le même. Il est mignon, celui-là, quand même. Hein. Sympa. On a presque fini. Hein. Oh, excellent. Rappelez-moi son nom. Monsieur. Le gros avec son gros ventre. La première qu'on a vue. Vous rappelez, Tuéris. Ah oui, tout ça, vous les apprenez pour la fois prochaine, attention. Hein. Ah oui, non, mais c'est, en plus, c'est des tellement jolis noms. Hein. Tout ça, la fois prochaine, c'est connu. Hein.
Ah ben non, ben ça, c'est toujours
Isis, voilà, Isis allaitante, Isis lactance, avec son trône sur la tête, pas de problème. et son gamin Horus. Ça.
Ah,
le pilier Zed. Voilà, on y arrive. Très bien. Le pilier de Zed. Ça, c'est. Tapatèque. Voilà. Vous voyez, petit à petit, hein, on y arrive. Ah, bon, ça, c'est. On n'a pas vu encore, mais je ne suis pas trop compliqué.
Tête de lapin,
c'est un lapin. C'est un lièvre. C'est un lièvre. Il y a des tas de miettes de lièvre. Le lièvre a notamment aussi été considéré comme ayant le. Il est rapide, il a l'œil perçant, deux qualités qui font qu'on l'a souvent en amulette. Hein, je crois qu'il y a encore une ou deux choses après.
Ah, ça, c'est les deux plumes.
De... Oui.
De mâtes.
Oui, absolument. Ce sont donc des plumes, hein, des doubles plumes. Mâtes a exactement ça sur la tête. Voilà. Soit facile.
Alors, comment ça va être?
On l'a déjà vu. À la fin, j'avais dit quelques petites choses pour réviser le plus. Hein. Isis. Alors, Isis. Horus ou. Arthocrate. Et Nephthys. Ben ah, voilà. Quand même pas compliqué. Hein. Et là, pour terminer, un pilier de gel. Au-dessus, simplement, vous ne voyez pas des vieux plumes. Hein. Et puis, entre les deux, il y a. Des cornes qui nous rappellent le dieu bélier qui s'appelle Khnoum. Très bien. Bon, eh bien écoutez, hein, je crois que c'était la dernière. Oui, voilà. Hein. Bon, bah, écoutez, on commence à posséder nos dieux égyptiens. Ainsi mieux, parce que la fois prochaine, on va en avoir besoin. Hein. Voilà. Donc vous passez les copies à ceux qui n'étaient pas là, parce que la fois prochaine, ils vont en avoir les gars. Voilà.
Bravo, ça veut dire que. Si on voulait protéger tout, il fallait avoir un sacré collier.
Il fallait avoir une collection. Oh, généralement, effectivement, dans les tombeaux, on trouve beaucoup, beaucoup d'amulettes. Hein.
Ouais.
Et la production a été considérable, absolument énorme.
Hein. Voilà. Il y a combien de...